Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, la boîte de 500 grammes d'asperges blanches violettes est à seulement 3,69€.
À ce prix-là, je pense déjà à mon velouté d'asperges. Mes invités vont en voir de toutes les couleurs.
C'est ça le printemps.
Bon bah je vous laisse, j'ai des courses à faire.
Et ça, c'est le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 3,69€ la boîte de 500 grammes d'asperges blanches violettes, soit 7,38€ le kilo. Origine France, catégorie 1, calibre 16-22. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile.
RMC, la boîte à souvenirs,
Marie Martineau.
Bonjour à tous, je m'appelle Marie Martineau, j'ai 36 ans, je suis une championne de ski acrobatique, double médaillée d'argent aux Jeux Olympiques, alors que j'avais totalement laissé tomber le ski. Et ensemble, nous allons réouvrir ma boîte à souvenirs.
RMC, la boîte à souvenirs.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre émission intimiste sur RMC avec les membres de la Dream Team. Et aujourd'hui, nous sommes donc avec Marie Martineau. Salut Marie.
Salut, bonjour à tous.
Tu vas bien ?
Oui, ça va.
Alors durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes cicatrices, la championne que tu étais, la femme, la maman que tu es devenue. Ton boulot est très simple. Face à toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur et au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer au sort, dessus, un mot, une date, un moment que tu vas évidemment nous raconter. Avant de débuter, comment tu te sens alors de regarder dans le rétroviseur ? J'ai senti sur ton bonjour qu'il y avait un petit peu de stress. Je me trompe ou pas ?
Mais en fait, ça allait bien jusqu'à il y a 3 secondes, là, et je sais pas, le jingle et le fait que tu parles des dates, des cicatrices et tout. Tu as déjà dit 3 mots et je suis beaucoup moins sereine qu'il y a 2 minutes.
Ouais, moi, c'est sur les dates où je suis pas très serein parce que je sais que tu as pas du tout la mémoire des dates. Et ça peut être un gros problème pour cette émission.
Il va peut-être y avoir des blancs.
On va débuter. Tu peux tirer ton premier papier, Marie Martineau, dans la boîte à souvenirs aujourd'hui.
Alors, le premier backflip.
Premier backflip. Avant d'en parler, je vais juste te faire écouter quelque chose. Tu vas me dire à quoi ça te fait penser.
Et voilà dans le ciel de la Tarentaise apparaître la patrouille de France.
Elle clôt le défilé. La voici qui s'avance. Toutes d'argent vêtues, c'est l'équipe de France.
Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville.
Gold medal and Olympic champion, Edgar Ropiron, France.
Là, j'ai 8-9 ans, c'est les Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques chez moi. Et je suis toute petite et tout ça, c'est énorme, c'est gigantesque. On en parle depuis des années parce que la Tarentaise, la Savoie et la Tarentaise notamment, est en travaux. Donc on en parle à la maison, on en parle à l'école, on en parle partout. Et c'est enfin les Jeux Olympiques d'hiver à Albertville où on est en plein cœur. Donc c'est un souvenir d'enfance incroyable. Puis c'est le début de mon rêve de devenir une Olympienne.
Exactement, une Olympienne. Et plus que ça, on a entendu cet extrait, Edgar Gros-Piron, qui devient le premier Français champion olympique de bosse. Et à ce moment-là, toi aussi, tu veux faire des bosses. C'est le déclic pour en faire.
Exactement, oui, c'est le déclic pour en faire. Suite à ça, je dis à mes parents, moi je veux aller au club des sports à La Plagne et je veux faire du ski de bosse et du saut acrobatique.
D'ailleurs, avant de reparler du club des sports de La Plagne, tu as un rapport particulier avec les Jeux Olympiques. Je crois que dans ton garage, il y avait même un bobsleigh qui allait faire les Jeux Olympiques.
Ouais, en fait, c'est le bobsleigh des Îles Vierges et ils étaient venus s'entraîner sur la piste de bob l'hiver d'avant. Et évidemment, ils n'ont pas ramené le bob aux Îles Vierges pour le ramener. Donc, ils avaient cherché un endroit pour le mettre. Et mon papa travaillait à la station à cette époque-là et il avait dû proposer de le garder. Donc, on s'est retrouvé avec le bobsleigh des Îles Vierges. Alors, c'était pas la Jamaïque, mais pas loin. Enfin,
ouais, dire, bon.
Et donc, il était dans le garage et je me souviens très bien les mercredis quand j'ai des copines qui venaient à la maison, il fallait qu'elles descendent au garage, je leur montre le bobsleigh, quoi. Elle devait en avoir pas grand chose à faire et puis pas trop comprendre le truc, mais pour moi il y avait un morceau des Jeux Olympiques dans notre garage. Ouais.
Alors à partir de ces Jeux Olympiques d'Albertville en 92, tu décides de vouloir faire des bosses. Tu veux t'inscrire au club des sports de La Plagne en 93, mais t'as pas forcément l'âge, tu es encore toute petite, hein. tu as 9 ans.
Oui, c'est ça. Je peux rentrer au club des sports, mais je dois passer par des groupes. Ils appellent ça le pré-club. Et puis après, il y a la base commune. C'est vraiment pour apprendre un peu tous les sortes de sports. Et puis surtout qu'on donne des bonnes bases de ski alpin. Et moi, je ne veux pas du tout faire ça. Et donc, en fait, ben, vu que je suis têtue et un peu pénible, mes parents vont dans mon sens et demandent à ce qu'on me fasse un petit traitement de faveur. Et je rentre directement dans la section du club acrobatique, la section accro.
Acrobatique, il faut le dire, dans cette émission, il y aura des surprises. Évidemment, Marie, tu n'es au courant de rien.
Non.
On va débuter avec ta maman, Françoise Martineau. À ce moment-là, parce que tu es quand même une petite boule énergique, c'est-à-dire que tu fais beaucoup de sport, tu n'arrêtes pas, il faut te trimballer à droite, à gauche.
Oui.
Et donc, le club des sports de la Plagne, au moins, c'est bien, c'est un endroit. Françoise.
Elle faisait du ski de fond avec le collège. Et alors, nous, on était à la Plagne. Et alors, le samedi et dimanche, je descendais à M, je remontais à Pézé-Lancroix, parce que les entraînements étaient à Pézé-Lancroix. Et voilà, j'ai fait ça toute une saison. Et à la fin, je dis stop. On travaillait à fond toute la saison. Je dis stop maintenant. Tu vas au club des sports de la Plagne si tu veux faire du ski, mais voilà. Et ils ont ouvert à ce moment-là une section freestyle. Donc là, ça a été parfait. Elle était dans un petit groupe, un super entraîneur, Greg. Et voilà, et c'est un truc qui lui a plu, quoi. Voilà.
On va reparler d'ailleurs de Greg Guenet, qui est ton entraîneur et qui te suivra d'ailleurs longtemps. Tu découvres quoi dans ce club des sports ?
Alors, la section, elle existait depuis un petit moment. Il y avait eu des grands champions déjà dedans. Olivia Lamont, Candice Gilles, il y avait déjà Sandra Laura. Je découvre un groupe de gens qui ont tous au moins 3, 4, 5 ans de plus que moi. Je suis la petite dernière, donc je suis un peu chouchoutée. Et j'essaie de balancer tous les mêmes trucs qu'eux, ils balancent déjà, tu vois. Donc, donc voilà, et ça me forge le caractère. Et puis en même temps, ça me permet d'apprendre très vite plein de choses, plein de bases de techniques d'acrobatie pour plus tard.
Et ça va être très important pour toi, parce que Greg Guenet va s'occuper de cette section boss 6 mois après ton arrivée.
Exactement.
Et le papier que tu as tiré, c'est premier backflip. Il y a une histoire sur ce premier backflip. Forcément, quand on fait du ski acrobatique, c'est indispensable, mais il faut savoir le réaliser.
Bah oui, alors on a commencé à le faire sur les trampolines. Hein. Alors c'était un peu sympa parce qu'il m'accrochait un jogging autour de la taille et donc pour me parer. Donc je faisais des backflips, mais c'est limite lui qui me faisait tourner. Quoi. Et puis au bout d'un moment, on en avait fait tellement qu'il est arrivé le jour où il a construit un mini saut à notre taille, moi et mes 3-4 compères de l'époque. On avait 10 ans. Et c'était le jour où on devait faire le fameux premier salto arrière sur la neige, ce qui n'est plus du tout le même délire que de le faire sur le trampoline. Et moi, je pars pour
Marie,
le premier.
Marie, tu sais quoi ? Greg Guenet va raconter la suite.
Ah, ok.
Je lui avais appris à faire des sauts par yo-yo au trampoline, parce que c'est la formation qu'on suit d'habitude. Et puis, quand il a fallu y aller sur les skis, je lui avais dit, si tu te rates en l'air ou si tu hésites en l'air, etc., je te rattraperai. Je te rattraperai dans mes bras et puis comme ça, il n'y aura pas de problème. Tu peux y aller en toute confiance. Le premier, effectivement, elle est partie. Et elle n'a pas vraiment fait ce qu'il fallait. Je l'ai rattrapée dans mes bras. Et du coup, je pense qu'elle s'est sentie en confiance. Elle a vu que je ne lui avais pas dit des bêtises. Et du coup, le second, il y est allé. Elle l'a posé sur les pieds. Et c'était parti pour une longue série. Quoi.
C'est la première fois que tu pleures de joie ?
Oui, c'est la toute première fois que je découvre qu'on peut pleurer quand on est content. Tu te rends compte ? C'est-à-dire que le saut se passe. Donc effectivement, il m'avait rattrapé juste avant. Il m'a posé dans la neige, là, tout délicatement. Donc je me dis, super, avec ce mec, je crains rien. Et donc la deuxième passe, et t'as une grande réception. Hein, donc je pose, et puis je peux pas m'arrêter pour lui dire « Ouais, tout de suite !» Donc je suis obligée de descendre toute la réception, et j'arrive en bas. Et les autres enchaînent derrière moi, ils y arrivent aussi. Et donc on se retrouve en bas, et je dis « Ouais !» Et là, je me mets à pleurer de joie avec eux. On reprend le téléski, on remonte, et puis voilà. Mais c'est vrai que ce premier backflip, c'est un truc, ça me restera gravé toute ma vie. Les deux choses, la confiance qu'il a pu me donner, et en même temps, le fait d'avoir réussi à faire un truc qui me faisait très très peur.
Quelle gamine tu es à ce moment-là ? Jeune, la dizaine ?
Je crois que je suis un peu un garçon manqué, et une grande bouche, et je suis déjà une compétitrice, il faut que je sois la meilleure, la plus rapide, c'est déjà ancré dans moi, et peut-être un petit peu pénible quand même, parce que beaucoup trop de confiance en moi pour le peu.
Tu as parlé d'une membre de cette équipe du club des sports de la Plagne, Sandra Laura, médaillée de bronze au boss aux Jeux Olympiques 2006. Elle était un peu plus grande que toi. Elle est toujours un peu plus grande que toi, quelques années de plus. On va l'écouter. Comment tu étais à l'époque ?
Elle pouvait très bien aller skier toute la journée dans la poudreuse, faire des bosses et après faire du saut et puis le soir rigoler, s'amuser et être entre copains dans un appartement à 4-5 très restreint. Donc elle était ouais, tout feu tout flamme ce qu'elle est aujourd'hui.
T'as pas changé, hein?
Non mais Sandra, mais je l'adore, c'était ma grande sœur, c'était, déjà c'était la seule fille dans le groupe, et puis enfin au tout départ, après il y en a d'autres qui sont arrivées, mais au départ c'était la grande sœur, et puis elle était hyper tendre avec moi, elle m'a jamais vue comme une rivale, en plus elle était vraiment plus dans les bosses, et moi on s'est très vite rendu compte que j'étais plus tournée vers le saut et les acrobaties, et elle était toujours bienveillante, elle était toujours souriante, elle me donnait trop envie. C'est chouette d'avoir quelqu'un qui est juste un petit peu au-dessus de toi et qui te donne un peu la marche à suivre et qui te montre l'exemple.
La grande sœur, on en reparlera à mon avis un petit peu plus tard dans la boîte à souvenirs. Je te propose, Marie Martineau, aujourd'hui avec nous dans la boîte à souvenirs, de tirer un autre papier dans cette boîte à souvenirs.
Allez, et vous avez fait un boulot dingue, hein, c'est génial. Ah, c'est une date. J'y sais, c'est une date.
Ah, vas-y.
Le 23 mars 2018.
C'est bien, c'est le grand écart. On fait le début et limite la fin. 23 mars 2018, ça t'inspire quoi?
Je sais. C'est ma dernière compète de Halfpipe, je pense.
C'est ton dernier run à Tignes. On va l'écouter.
Allez, Marie!
C'est un moment incroyable.
Bah oui.
Avec la Marseillaise.
Ouais, j'entends oh là là, c'est exactement comme si j'y étais. C'est-à-dire, il y a trois runs en finale. Et puis, donc Ben Valentin était blessé. Et donc, il faisait le speaker de cette dernière course. Donc, la dernière Coupe du Monde de la saison, qui est à Tignes, à la maison. Donc, il faut imaginer, il y a 7-8 000 personnes en bas du pipe. C'est nocturne. Il y a vraiment une ambiance toute particulière. Bon, effectivement, je sais que c'est ma dernière course. Et Ben me chope dans la raquette d'arrivée après mon deuxième run. Donc, il m'en reste plus qu'un. Et il me dit, ouais, qu'est-ce que t'aimerais pour ce dernier run et tout. Et je sais pas, ça me vient comme ça. Je dis, ben, j'aimerais que les gens ils chantent la Marseillaise. Et donc, je remonte. Il y a quand même, la course n'est pas finie. J'ai ce dernier run à faire. Il y a des enjeux sur la compète. En même temps, il y a une boule d'émotion incroyable parce que c'est certainement la dernière fois que je fais du pipe de ma vie. Et là, les gens, certainement le DJ lance la Marseillaise et les gens se mettent à chanter. Il a filé le micro à un gamin qui était à côté, donc j'entends ce gamin qui chante la Marseillaise et je pars pour ce dernier run là-dedans. Je suis hyper concentrée parce que quand même, je dois balancer des tricks et que ça reste un pipe qui fait 7 mètres de haut. Et en même temps, j'ai l'impression de vivre un moment tellement cadeau. Et tout le long du pipe, je fais mes tricks et j'entends à chaque fois que je sors du pipe et que je décolle et que je fais ma figure, j'entends les gens chanter la Marseillaise. Mais c'était ouf. Enfin, j'aurais pas pu rêver d'une plus jolie fin de carrière. C'était extraordinaire.
Donc, la suite ne te fait pas peur à ce moment-là?
La suite me fait pas peur. C'est le climax d'un truc de fou. Enfin, tu vois, il y a quand même des gens qui sont là, agglutinés dans le froid. Il fait hyper froid et qui sont là, hyper souriants, bienveillants à mon égard. Je me fais comme un bain de foule. Enfin, je viens sur le board et avec les filets, je m'approche. Les gens, ils veulent me toucher, ils veulent me sourire, ils veulent me dire merci, bravo. Enfin, c'est juste incroyable, je prends cette espèce de vague d'amour et de gentillesse en pleine tronche. Et donc non, à ce moment-là, je ne suis pas triste.
Ouais, c'est vrai que si tu ne voulais pas avoir froid, il fallait faire un autre sport aussi, Marie.
Oui,
mais on va y revenir dans quelques instants, ne t'inquiète pas. RMC t'appelle quelques mois après, mais vraiment, je dirais même quelques semaines après la fin de ta carrière. Et tu vas donc faire tes grands débuts dans les grandes gueules du sport. Une autre date, tiens, le 10 juin 2018. C'était ta première.
RMC, 10h-13h, les grandes gueules du sport. Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski.
11h05 sur RMC, les grandes gueules du sport, c'est reparti jusqu'à 13h avec un changement d'équipe et une petite nouvelle. Ben oui, ça, il faut quand même bien le dire.
Oui, encore dans le côté freestyle.
On est très freestyle de toute façon.
Salut Marie,
bonjour, bonjour à tous.
Bienvenue
au cours de la table. Oui, merci, je suis ravie d'être parmi vous. On m'a donné un rôle, on m'a dit qu'il faut dépoussiérer. Alors,
c'est sympa pour nous.
Déjà la punchline avec Christophe Cessieux et Sarah Pitkowski.
Mais je me souvenais pas du tout que j'avais dit ça, quelle impertinente. Non mais n'importe quoi. C'était magique. Tu sais, la reconversion, c'est dur, ça dure longtemps, c'est compliqué. Et c'est vrai que quand je reçois un coup de téléphone de Ludo et qu'il me dit, bon, écoute...
Ludovic Languet,
il m'explique qu'il est en charge des intervenants et qu'il aimerait bien me faire un essai et tout. C'est vrai que quand j'arrive là, bah, je suis dans le grand bain, mais je comprends rien, je connais rien. Je sais pas ce que c'est une régie, je sais pas qu'il y a des boutons pour parler dans les ordres, je sais pas qu'il y a quelqu'un derrière qui a préparé toute l'émission. Je connais vaguement Christophe parce que il était à Pyeongchang, que j'avais le souvenir d'un mec sympa et qui avait été super cool en interview après les jeux, mais je connais pas Sarah, je sais même pas qui c'est, ce qu'elle fait. Enfin, je suis larguée complet. Et du coup, mais je me souviens même avoir dit à Ludo, est-ce qu'il faut que je prenne des cours de journalisme ? Est-ce qu'il m'avait dit, oh là là, surtout pas. L'idée, c'est que tu sois toi-même. Nous, ce qu'on aime, c'est qui t'es. Donc bon, ben, j'arrive là, dans le grand bain, mais je serais pas fière de réécouter l'émission en entier, parce que tu dis grand-chose dans tes livres.
Eh bien, justement, on va écouter cette émission en intégralité. tu as le track à ce moment-là ? Tu te souviens ?
Oui, j'ai le track, c'est sûr, parce qu'il y a un rythme quand même en radio que je connais pas du tout à ce moment-là, donc je sais pas vraiment quand je dois parler, je sais pas comment je dois couper la parole ou pas, tout ça c'est un peu, il faut faire sa place, et puis je suis à côté, il y a du monde autour de la table, donc ouais, j'avais le track, carrément.
Ton plus gros problème, au moment de débuter, c'est Pierre Amiche, le producteur de cette émission, le producteur des Grandes Gueules du Sport, qui va nous le dévoiler.
Ah, je me rappelle vachement bien parce qu'elle est arrivée dans les studios à l'époque, on était encore à Oradour-sur-Glane et en fait elle était juste terrorisée, elle était très flippée et ça a été un peu long à se décanter parce qu'en fait elle était victime du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que en gros RMC avait signé un pacte de performance avec Marie, donc elle était déjà intervenue à l'antenne plusieurs fois et elle était hyper à l'aise quand elle passait dans le Moscato Show ou quand elle racontait sa préparation, sa carrière, etc. Mais une fois que sa carrière s'est terminée et que RMC l'a contactée pour intégrer la bande des Grandes Gueules, en fait, elle ne comprenait pas pourquoi. Elle ne savait pas pourquoi elle et pas les autres. Et elle ne comprenait pas ce qui faisait la différence entre elle et le commun des mortels. Et ça a été un travail de fou de lui faire comprendre qu'elle était non seulement légitime sur plein de sujets, mais surtout pertinente.
Le syndrome de l'imposteur. Tu l'as toujours, ça ?
Oui. Oui, je l'ai encore. Je me remets en question chaque fois qu'on fait une nouvelle émission, chaque fois qu'on fait les Grandes Gueules. C'est quelque chose. Des fois, je me sens pas légitime. Des fois, j'ai pas forcément l'historique des sports dont on parle. Je suis obligée de travailler beaucoup pour me convaincre que mon opinion est intéressante. Mais oui, je l'aurai toujours. Mais c'est pas que là. Hein, ça a un peu. Peut-être qu'il y a vraiment que dans le ski où j'ai toujours su que c'était ma place, tu vois. Donc là, effectivement, oui, j'avais ce syndrome. Et cumulé à un autre truc qui était le fait que je savais que c'était une belle porte ouverte, que c'était pour moi une belle façon de pouvoir continuer à faire un truc qui me fait kiffer, qui peut être un métier, je ne sais pas comment dire, quelque chose qui ressemblera au sport, où je sentais qu'il y avait quelque chose de sympa à faire et que je n'avais pas le droit de me gourer, je n'avais pas le droit d'être mauvaise. Enfin, j'aurais pu faire 4 émissions et puis qu'on me dise, bon, bah, écoute, c'était sympa, mais ça ne va pas le faire. Et j'avais trop peur de ça. Je l'ai toujours.
Et Marie Martineau continue aujourd'hui les Grandes Gueules du Sport et tu continues dans l'émission que je présente désormais avec grand plaisir et je suis très bien placé pour en parler. Tu as un regard différent des autres sur l'actualité, tu as une personnalité différente et donc ça fait beaucoup de bien à l'émission et je te le dis dans la boîte à souvenirs. La boîte à souvenirs avec Marie Martineau, vous écoutez RMC, un nouveau papier tiré au sort par Marie, notre championne de ski acrobatique.
Allez. Oh là là. Le code barre.
Le code barre. Qu'est-ce que c'est le code barre ?
Mais alors c'est un jeu de mots, hein. C'est B-A-R. Là il a été écrit B-A-2-R-E-S, tu vois.
Oui,
le
mais
truc
parce qu'on l'écrit bien. Non.
Voilà.
C'est quoi le code barre ?
Mais le code barre, c'est à 22 ans, je décide d'arrêter de skier. Donc j'ai une jolie première partie de carrière derrière moi et voilà, je décide que j'en ai marre, je ne veux plus faire ça. Pour pas trop faire long, je pars en saison d'été en Vendée, je sers des pizzas et des moules à la moule masquée, je découvre des gens fantastiques, des patrons quoi. Et puis la saison se termine. J'ai fait ça avec mon amoureux du moment, Max. Et puis, la saison se termine. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'avais mis un petit peu de rond de côté. On se dit, allez, on remonte en Savoie. On achète un fonds de commerce et on se met à notre compte. Après tout, si on est capable de faire là et de bosser ensemble, on va bien réussir à tenir un établissement nous-mêmes.
Alors, je reviens un petit peu en arrière, évidemment, parce que pour tous ceux qui nous écoutent, c'est quand même très important et c'est très particulier. Tu as 22 ans. Tu es une championne en devenir. Et du jour au lendemain, tu décides de tout plaquer, d'arrêter.
Oui. Alors ça fait 4-5 ans. Depuis mes 15-16 ans, je suis à l'étranger toutes les saisons et je vais d'une station à une autre. Le schéma se répète quand même inlassablement. C'est les mêmes courses aux mêmes endroits, à la même période, avec les mêmes gens. Et ça y est, j'en ai marre. Je veux plus faire ça. Alors c'est vrai qu'au départ, les gens, ils ont trouvé ça un peu bizarre parce que vu de l'extérieur, c'est la vie rêvée. Tu fais tes bagages, tu vas au Colorado, tu vas au Kamtchatka, tu vas en Turquie faire des dépôts en hélicoptère. Enfin, j'ai vécu des trucs de fou. Hein. J'aspirais à redevenir quelqu'un juste de normal. Je voulais plus voyager. J'ai commencé à me sentir très mal à l'étranger. Je faisais des crises d'angoisse assez impressionnantes. Je ne me reconnaissais même pas moi-même. À plus pouvoir prendre l'avion. Dès que les jours de voyage arrivaient, c'était une angoisse la plus totale. J'ai menti à mes sponsors en prétextant des trucs à la con pour ne plus partir. Enfin, j'ai fait un hiver, un enfer psychologique. Et au lieu, tout simplement, d'aller voir un psy ou d'essayer de comprendre pourquoi je commençais à être en angoisse permanente de bouger et d'être à l'étranger, je me suis dit, si je skie plus, je ferai plus de voyages. Donc, j'aurais solutionné le problème. Donc, j'ai solutionné le problème, assez simplement.
Tu as arrêté et forcément, ça a surpris énormément de monde, notamment une très, très bonne amie, Virginie Fèvre. Mmh. On l'écoute.
C'était une grande surprise. Personne s'y attendait vraiment et l'a vu venir. Elle avait 22 ans. Du jour au lendemain, elle disparaît. Il y en a beaucoup qui ont pensé qu'elle allait revenir. Pour moi, je dirais que ça a été très difficile parce qu'on était inséparables. On partageait tout ensemble. On a beau pratiquer un sport individuel, c'était un peu ma coéquipière. Moi, j'ai ressenti un grand vide. Mais après, j'ai vite compris, connaissant Marie, que elle avait plus envie. Et à ce moment-là, et puis Marie, elle fait pas semblant.
Comment tu réagis à ça?
C'est Virge, hein, c'est mon binôme, c'est ma meilleure amie, c'est la marraine de ma fille. Et c'est dur de l'entendre dire ça parce que c'est sûr, je l'ai complètement abandonnée. On faisait ça ensemble depuis 5-6 ans. Et moi, j'étais déjà dans le milieu quand elle est arrivée. Et on est vraiment devenus inséparables. Et c'est vrai que même à aucun moment, je lui ai dit est-ce que ça t'embête si j'arrête, tu vois, genre, alors qu'on faisait tout ensemble, c'est vrai. Donc, je ne me suis jamais trop rendu compte que je l'avais un peu laissé tomber. Après, elle a fait une carrière fantastique. Elle a été championne du monde 3 fois. Elle avait de quoi voler par ses propres ailes, c'est sûr. Et puis, des qualités pour se faire d'autres amis et mener sa barque. Et elle l'a très bien fait. Mais c'est vrai que c'est un peu égoïste. À aucun moment, j'ai pensé que ce n'était pas cool de la laisser. Et on n'a pas eu de discussion là-dessus, quoi. Et quand tu penses que c'est elle qui est revenue me chercher pour que j'y retourne, c'est assez...
Et tu vas garder ce bar quelques années. Que va devenir ce bar? On va le découvrir tout à l'heure avec un nouveau papier. Marie Martineau avec nous sur RMC, la boîte à souvenirs. Un nouveau papier avec toi dans ta boîte à souvenirs.
Allez, enveloppe de cash.
Enveloppe de cash, ça fait penser à quoi?
Ça c'est avant que donc j'arrête et que je fasse le code barre. À l'époque, les coupes du monde FIS étaient les prize money étaient libérées en cash dans des enveloppes. Donc
alors c'est ça qui est intéressant parce que on parlait de ce revirement de situation et de changement de vie. Donc à 22 ans, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à 16 ans, tu es au club des sports de la plage. On en a parlé tout à l'heure. Mais à 16 ans, tu changes aussi totalement de vie. Qu'est-ce que tu vas faire?
Jusqu'à là, je suis vraiment prise en charge tout le temps par la section freestyle du club des sports. Et puis, je suis lycéenne, donc je suis en ski études. Je suis libérée les trimestres d'hiver pour aller faire que du ski. Et, Et en fait, j'ai mes premiers sponsors qui me tombent dessus. Et à ce moment-là, ça ne se passe pas très bien avec le club des sports. On commence à me parler de faire signer des contrats tripartites où le club ferait partie du contrat, que ce serait le juste retour des choses vu qu'ils ont, entre guillemets, financé ma formation jusque-là. Et qu'il faudrait que l'argent revienne au pot commun, serve aussi à mes petits camarades qui ont mon âge, mais qui n'ont pas forcément des sponsors parce que ben, moi, je suis une fille, il y en a très peu. Donc, c'est vrai que très vite, les marques me mettent le grappin dessus. Et surtout, on me propose de partir à l'étranger pour faire des compètes internationales, voir d'autres filles justement, alors qu'il n'y en a pas trop en France. Et là, le club, ils sont assez réticents à me laisser partir. Je pense qu'à l'époque, je suis chiante, je suis un peu en crise d'ado. Ils trouvent que je ne suis pas méritante pour y aller parce que je ne me conduis pas assez bien. Alors, je skie très bien, c'est super, mais je ne me conduis pas assez bien à côté. Donc, ils trouvent que je ne suis pas méritante. Et dans mon souvenir, peut-être qu'il a un peu pris un coup dans l'aile, mais dans mon souvenir, ma maman prend mon parti et me dit « Écoute, pars à l'étranger et puis on verra comment ça se passe avec le club. » Et évidemment, je pars et ça ne se passe pas bien avec le club. Et ça se finit comme ça, en tout cas à ce moment-là, avec le club des sports. Et donc, je change de vie dans le sens où je m'internationalise. C'est la première fois que je pars aux US, au Canada. Je rencontre d'autres filles qui font comme moi. Genre, c'est génial.
Tu quittes totalement le giron de la fédération.
Bien
et tu
sûr.
Vas faire du freestyle avec les plus grands.
C'est ça. Et en fait, du coup, à ce moment-là, le freestyle, c'est un sport naissant. Donc, il n'y a que des compétitions, mais qui ne sont pas fédérées. Ce n'est pas la FIS. C'est vraiment des indépendants, des marques qui veulent faire des ronds, ça se passe vraiment tout aux US quasi. Et l'idée, c'est des grosses marques de boissons énergétiques ou quoi, qui mettent des ronds dans de l'événementiel et qui créent des compétitions de dingue pour les freestylers. Et on voyage entre marques, c'est-à-dire on ne voyage pas du tout sous l'égide de notre pays, mais on voyage sous les couleurs du sponsor principal qu'on a, en l'occurrence les marques de ski. Donc moi, je suis dans le team Dynastar et je suis dans ce team avec des Japonais, des Canadiens, des Ricains. Et donc voilà, c'est ça mon team, c'est ça ma famille, ça qui devient ma famille en fait.
Quelle vie à 16 ans déjà, et, ouais. Et donc on va revenir dans quelques instants sur les enveloppes de cash, mais sur cet arrêt avec le club des sports de La Plagne, Greg Guenet, que tu connais depuis des années, c'est ton entraîneur, bah, il va décider d'arrêter aussi après ton arrêt, on l'écoute.
Je l'ai senti un peu décroché de ce que je faisais traditionnellement dans le club dans lequel elle était et où j'entraînais. Et j'ai senti qu'elle avait du mal à suivre les entraînements, les disciplines que je mettais en place pour essayer d'en faire des sportifs, etc. Et donc, à ce moment-là, d'un commun accord, elle ne s'est plus entraînée avec moi parce que j'en avais plus très envie. Et puis, je l'ai laissée aussi faire son bout de chemin toute seule, qu'elle a sûrement très bien mené d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une période à laquelle on ne s'est plus trop vu.
Ah ben, on ne s'est plus vu du tout. Hein. Ben, il n'y avait plus de coach. À ce moment-là, dans les teams, il y avait un team manager et il n'y avait plus de coach. Il n'y avait plus personne pour me dire peut-être fais une rotasse comme ça ou là, le pipe, il est moyen, il vaut mieux rider plus en bas parce que la courbe, elle est meilleure. J'étais complètement livrée à moi-même, mais j'avais plein de pattes de ride. Et donc, c'était eux, mes coachs. On s'auto-coachait. Alors, c'est pas une période où j'ai fait grave de progrès, techniquement.
Tu m'étonnes.
Mais c'est la période où j'ai filmé avec les plus grandes boîtes de prod de films américains. C'est la période où j'ai fait des pro-modèles, c'est-à-dire que les marques me proposaient de développer du matériel à mon nom. Donc j'ai eu des skis qui portaient mon nom, j'ai eu une tenue de ski qui portait mon nom. Donc je me suis vachement épanouie dans le business ski, entre guillemets. Et je me suis plus fait un nom à travers
et
ça.
Tu gagnes quand même.
Mais je gagnais quand même les compètes. Ouais, je continue à gagner. Mais j'aurais pu les gagner avec une marge d'avance. Et là, je les gagnotais juste en surfant sur les bonnes bases que m'avait enseigné Greg Guenet.
Donc, les enveloppes de cash.
Et les enveloppes de cash. Bah, de mémoire, quand tu gagnais une Coupe du Monde, c'était 4000 euros. Donc, je repartais. Alors, il y a une retenue à la source suivant le pays où tu es, mais les Coupes du Monde qui avaient lieu en France, là, il n'y a pas de retenue quand c'est ton propre pays. Donc, je repartais avec 4000 euros en cash dans une enveloppe. Et mon père, il hallucinait, quoi. Il me disait, mais tu te rends compte, j'ai 50 balais, je suis à mon compte depuis 30 ans, avec ta mère, on se fait chier H24, et c'est à peine ce que je me sors comme salaire au bout de 30 années. Et il me dit, c'est bien, je vis mieux que les trois quarts des gens, quoi. Et moi, je revenais de ma compète avec mes 4000 balles de cash que je claquais n'importe comment. Mais ben, c'est l'école de la vie, hein, qu'est-ce que tu veux.
Image d'une gamine pourrie gâtée, tu penses, à ce moment-là, ou pas, du tout?
Certainement, je suis la moins bonne pour me juger à ce moment-là. Moi, j'avais l'impression que c'était normal parce que je skiais mieux que les autres. Donc, voilà, après tout, c'est ce qu'on me demandait. Et en même temps, c'est vrai que j'avais 18-19 ans, j'étais en couple avec un snowboarder, j'étais complètement assumée financièrement, je payais mon école, je payais mon appart. J'avais l'impression que c'est bon, c'était parti pour moi dans la vie, tu vois. Et assez fière, parce que mon père est un entrepreneur, ma mère est une entrepreneuse, ils se sont construits tout seuls, ils sont partis de rien, donc j'avais l'impression que je faisais le taf, quoi.
On va écouter Ben Valentin maintenant, ancien membre de l'équipe de France de freestyle. Il se souvient de cette époque et de la jeune fille que tu étais.
En fait, si tu veux, Marie, c'était une sale gosse à l'époque un peu. J'étais trop jeune pour le dire, mais c'est vrai, sa première carrière, c'était une sale gosse un peu. Elle, comme je disais, elle partait dans tous les sens. C'était le ski de l'époque, il était comme ça. Sa deuxième carrière l'a vraiment changé, moi, je pense.
Une période bling-bling que tu ne renies pas de toute façon.
Non, pas du tout. Mais t'imagines, j'étais en pleine adolescence. Enfin, que demande le pape, quoi. Des ronds, des voyages, quelques chichons par-ci par-là, plein de mecs sympas, des gonzesses. Enfin, tout, c'était génial. Du ski à plus savoir qu'en faire. Et puis en plus, Neymar, elle nous rémunérait et en même temps, elle finançait nos saisons. Donc, il me payait mon contrat et en même temps, je payais pas un billet d'avion, je payais pas un coach, je payais rien, pas une chambre d'hôtel, rien. Donc, c'était n'importe quoi. Et Ben, il était petit à ce moment-là. Je me souviens de son premier, de mon dernier US Open qui était son premier. Et oui, il a raison. Je pense que j'étais une sale gosse.
Ça faisait peur à tes parents de gagner comme ça autant d'argent?
Non, je crois pas. Je crois que mes parents, ils ont toujours eu confiance en moi. Ils ont toujours su que. Je m'en sortirais. Mon père, quand il a su qu'il était condamné, il m'a dit « Bon, il va falloir que tu t'occupes de ta sœur parce que je ne suis pas inquiet pour toi. Je sais que tu retomberas toujours sur tes pattes. » Tu vois, je pense que j'aurais toujours donné l'image de quelqu'un de solide. Maintenant, Ben, il a raison. Ma deuxième carrière, c'était plus du tout le même ski. C'était plus du tout la même ambiance. Et j'ai adoré aussi, mais ça va que j'étais plus vieille.
Tu parlais de ta sœur, Charlie. On va l'écouter justement sur ce moment où tu gagnais bien ta vie, où tu rentrais à la maison avec de l'argent.
Je pense qu'elle ne devait pas bien m'aimer.
Je le revois dire, est-ce que tu crois, Noun, il appelait ma mère Noun, est-ce que tu crois, Noun, que quand même, tout ce qu'on lui apprend, enfin, tu vois, moi je vais au boulot, je me lève le matin, pour gagner 1000 balles, et ben, il faut que je fasse tant d'heures. Elle, ça lui tombe tout cru dans les mains, j'ai peur que ça la... Voilà, ils étaient vraiment inquiets de se dire, est-ce que finalement les valeurs qu'on lui inculque... elles vont ressortir quand même un jour, quoi.
Et oui, elle parle de tes parents. Voilà, ils s'inquiètent forcément.
Tu vois, comme quoi, moi, à ce moment-là, j'étais peut-être pas aussi. Je pense que je faisais pas trop attention aux gens autour de moi. J'étais peut-être un peu égoïste et j'ai jamais pensé qu'ils s'inquiétaient pour moi. En tout cas, si c'était le cas, et a priori c'était le cas vu qu'elle le dit, ils m'ont protégée de ça. À aucun moment ils me l'ont fait ressentir.
Le puzzle se reconstruit autour de Marie Martineau. Ouais. Nous avons les tout débuts, nous avons les 16 ans où tu pars donc à l'international, nous avons le 22 ans où tu arrêtes totalement pour ouvrir une boîte de nuit, un bar boîte de nuit, le code bar. On va poursuivre ta vie de championne. Marie Martineau dans la boîte à souvenirs sur RMC, tu peux tirer un nouveau papier.
Alors, Pyeongchang.
Pyeongchang. On est en 2018, ça va donc être tes deuxièmes Jeux Olympiques. Mais ça commence mal, parce que quelques jours avant de partir à Pyeongchang, tu vas te blesser, assez sérieusement quand même.
Oui, je me fracture le coccyx. Et...
Tu te souviens la première chose que tu dis au micro d'RMC ce jour-là?
Absolument pas.
Ça.
J'ai hyper mal au cul parce que comme vous avez peut-être vu, je me suis quand même mis sur les fesses au dernier run. Et en fait, j'ai une grosse commotion au coccyx. C'est marrant de dire grosse quand tu parles de coccyx, parce que le coccyx, je crois, c'est tout petit. Mais ça fait mal, mais vous imaginez même pas.
À aucun moment, on parle de médaille, quoi.
On parle de mon cul.
Oui, c'est un peu ça, ouais.
Non, mais parce que là, c'est le relâchement. C'est-à-dire que j'ai fait tout un travail mental pour mettre ça de côté. Et là, et ben, c'est fini, on peut en parler. En plus, évidemment, on avait bien dit avec les coachs et le staff qu'on n'en parlait pas, parce que c'est le genre de truc, si tu en parles à la presse, ben, c'est te mettre toi-même une pression de fou. Donc voilà, on avait dit on n'en parle pas. Et donc là, c'était marrant de pouvoir dire « Ouais, je suis un peu une warrior, j'ai fait tout ça avec le cul cassé, c'est quand même marrant. »
Nous, comme ça, de loin, on trouve ça génial, deux médailles d'argent. Mais pourquoi c'est Kesty Sharp qui gagne la Canadienne ce jour-là?
Ah, ce jour-là, elle gagne parce qu'elle a un meilleur run que moi, clairement. En fait, on le savait. Hein. Je veux dire, quand elle skiait parfait, elle était au-dessus de moi. Maintenant, on savait aussi qu'elle avait des gros soucis mentaux et qu'il y a plein de fois où elle a craqué. Et donc, j'avoue que quand même, j'avais un petit espoir que mentalement, elle ne soit pas au rendez-vous. Pour elle, c'était ses premiers jeux. Moi, c'était mes deuxièmes. Et en fait, vu que c'est quand même mon amie, ben, je pense que j'ai vachement joué dans le fait qu'elle soit bien parce qu'on a été beaucoup ensemble. On s'est entraînés ensemble, au départ on était souvent ensemble et en fait on s'est tirés vers le haut l'une l'autre et on s'est mis dans un move hyper positif, mais les deux. Donc voilà, j'ai peut-être aussi participé au fait qu'elle skie vraiment bien.
Tu penses qu'elle t'aime bien?
Bah, j'espère, ouais. En tout cas, je l'ai revue ici à Paris il n'y a pas très longtemps et oui, je pense qu'elle m'aime bien. Ouais.
Je sais pas, on va vérifier.
Vous l'avez appelée?
On va bien.
J'adore Marie et j'adore sa manière d'être. Je pense que n'importe où, n'importe quand, elle est capable de me battre. Et je peux la battre aussi. Mais je pense qu'on s'aime assez l'une et l'autre pour pouvoir être heureuse quoi qu'il arrive. Elle est drôle, elle est super gentille, elle nous encourage tout le temps. Elle me pousse toujours à tenter des nouvelles figures. C'est vraiment une fille bien.
Ah, elle est chou. Elle parle un petit peu français en plus, Cassie, c'est vraiment et québécoise. Donc ça, c'est quelque chose qui doit dater de quand on courait ensemble. C'est ça le ski freestyle, j'ai envie de te dire. Ok, c'est de la compète, dans le ring, dans le pipe, on est adversaire, mais il y a vachement de bienveillance entre les athlètes et c'est ça aussi qui t'épanouit et qui te rend heureux en tant qu'être humain, quoi. C'est hyper enrichissant que chacun prenne soin des autres et qu'on s'encourage. Et j'espère que c'est ce que j'aurais pu laisser à ces filles-là qui continuent à skier et qu'elles feront l'effort d'aller choper les petites jeunes qui arrivent sur le circuit pour leur dire « Ok, c'est votre première année, c'est une Coupe du Monde, c'est important et ça fait peur, mais en fait, vous allez voir, c'est une grande famille, puis on se regarde tous avec de la bienveillance. »
En tout cas, l'image qui reste de ces Jeux Olympiques 2018, c'est toi sur le podium avec ta fille.
Ah, mon bébé.
Mélie Rose, ouais. Qui a 8 ans. En tout cas, moi, c'est le souvenir que j'en ai de ces Jeux Olympiques avec toi.
Ouais, ben, c'était la belle histoire. Elle était là quand j'ai rattaqué et c'était évidemment inenvisageable qu'elle ne fasse pas partie de l'histoire plus. Tu vois, je la voulais à mes côtés quand même le plus souvent possible. Je trouvais que c'était une belle chance pour elle de voyager, de s'ouvrir au monde, de voir plein de choses. Donc elle est venue les trois quarts du temps. Et donc, on a vu la cérémonie d'ouverture, on a vu les premiers podiums français. Il y avait ces petites peluches, là, espèce de petit tigre blanc avec un chapeau emblématique de la Corée du Sud. Et je lui ai dit, mon but, c'est pas tant d'aller faire une médaille, mais c'est de te ramener cette peluche. Ce qui veut dire quasiment la même chose, puisque oui. C'est la peluche qu'on te remet à la place des fleurs sur le podium de cérémonie juste en bas du pipe, donc, mais voilà, c'était une idée fixe, je devais ramener cette peluche, et donc quand je la chope et qu'on monte sur le podium ensemble et qu'elle prend la peluche, là je me dis, voilà, je suis une bonne maman.
Elle aussi en garde un bon souvenir.
Ah. Les JO m'ont évidemment marqué parce que c'est mythique, c'est magique, c'est inoubliable. J'ai aussi beaucoup beaucoup de souvenirs du podium évidemment parce que quasiment pour tous les podiums je montais avec elle, mais oui j'ai des souvenirs de quand elle faisait ses runs et je me souviens d'une fois où elle avait réussi son 1000 à la fin et elle était trop contente quand elle était arrivée en bas, donc voilà.
Voilà, elle se rappelle aussi évidemment de ce podium, double médaillée à ce moment-là, ça change ta vie?
Oui, on va pas se mentir, évidemment, ça change une vie, des podiums olympiques. Si, et je vais quand même préciser, si tu t'enquières de ça et si tu te l'appropries et si tu te dis que c'est quand même une façon de faire quelque chose. Mais typiquement, RMC ne se serait jamais penché sur moi en étant exactement la même minette si je n'avais pas eu la chance de faire des podiums olympiques et de toucher l'Olympisme. J'aurais pu gagner les X Games 10 fois que François Pesanti n'aurait jamais pensé à moi. Ça te donne quand même une autre aura, ça te permet d'accéder à d'autres choses. Regarde, aujourd'hui, je siège à la commission des athlètes du CNOSF. C'est quelque chose auquel je ne pourrais pas prétendre si je n'avais pas fait les Jeux. Et c'est hyper enrichissant, hyper intéressant. Ça me permet de porter la parole des athlètes en haut lieu. Oui, les gens, le regard des gens change sur toi parce qu'ils t'ont vu à la télé, parce que tu as représenté leur pays, tu les as fait rêver. Il y en a qui te détestent, mais c'est pas grave, ça fait aussi partie du jeu. Et il y en a qui, que tu as fait pleurer, que tu as fait rêver. Il y en a qui, j'espère, j'aurais donné envie de faire pareil et qui un jour, ben, ils te diront, comme moi j'ai pu dire, j'ai rêvé sur Edgar Wopiron et Olivier Allemand, qui diront, ben, quand j'étais petit, je regardais Marie Martineau, tu vois. Oui, ça change tout quand même de médaille olympique, c'est sûr.
Et tu penses que pour ta fille, qu'on a entendu il y a quelques instants, mais les roses, c'est facile d'être ta fille ?
Je sais pas, on en parlait. Là, maintenant, on n'en parle plus trop parce que bon, ça va, tu vois, il faut laisser les choses à leur place et ça y est, c'est derrière moi tout ça. Mais quand elle était vraiment petite, vu que les gamins, ils m'avaient vu à la télé, j'étais plus la maman de Mélie Rose quand j'allais la chercher à l'école, j'étais devenue Marie Martineau. Puis alors, Martineau était collée à Marie, tu vois, donc j'arrivais pour l'emmener à l'école, puis il y avait une ribombelle de gosses à la barrière, et il me regardait comme si j'étais le messie, et Marie Martineau, est-ce qu'on peut avoir un autographe ? Et je faisais régulièrement des petites séances pour leur faire plaisir et tout, et là, j'ai senti quand même qu'il y avait peut-être un truc de, est-ce que tu vas quand même bien rester ma maman ? Elle me demandait des fois, je peux avoir un poster aussi ? Je disais, mais t'as pas besoin, ma chérie, toi tu m'as tous les jours, je suis ta maman et tout, mais ça démontrait quand même un peu la trouille qu'on vient de lui piquer sa maman.
Marie Martineau, dans la boîte à souvenirs, le ski acrobatique, sa passion, évidemment, son métier, son ancien métier, un nouveau papier avec toi, tu peux tirer.
Sochi.
Sochi, très bien, forcément, Sochi, 2014. Alors, un an après ton retour, car dans quelques instants, nous allons évoquer ton retour, on a évoqué cette... ce bar boîte de nuit, le code bar, et un an après ton retour, tu es invité in extremis pour les X-Games. On est à un an des Jeux, c'est fou.
Ouais, c'est exactement ça. Ben, les X-Games, ça fonctionne comme tu l'as dit par invitation, donc il faut faire des points, il faut être très bien classé au classement mondial, sauf que moi j'ai rattaqué les Coupes du Monde que depuis 3-4 mois, donc j'ai pas assez de points, donc évidemment je suis pas invitée dans la première salve, et ils gardent toujours une place au dernier moment pour inviter la personne en forme du moment. Et donc il y a une course à Tignes 2 semaines avant les X-Games, évidemment il y a tout le gratin, et on sait que cette place-là qui reste se jouera entre Angélie et moi, donc Angélie une Américaine qui a une très belle histoire, qui revient de la maladie de Lyme. Les Ricains, ils adorent les histoires, tu sais, ils adorent raconter, faire de l'entertainment autour des athlètes. Donc, je sais que c'est pas mon histoire qui va peser dans la balance parce que j'ai ma gamine en porte-clés, tu vois. Elle a aussi une histoire assez incroyable. Elle est sortie de l'hôpital il y a pas très longtemps et elle skie super bien. Et on se tire la bourre sur cette dernière course avant les X. Et elle craque. Elle se met une pression de ouf et elle fait n'importe quoi pendant la course alors que c'était du pain béni pour elle. Elle craque, je gagne la course, je prends la place pour les X-Games et 2 semaines plus tard, c'est les X-Games à Tignes, à la maison, j'en ai rêvé toute ma vie et je sais pas, ce jour-là, je suis on fire et donc je gagne.
Tu gagnes, exactement.
Marie Martineau, of course, we've felt the power of this French dynamic in Superpipe for quite some time, but on the women's side, it's been lacking until the arrival. Wow, definitely... giving some props out to some of her friends.
The future is female.
Marie Martineau, the teacher, la professeure. Bah, il faut dire que t'as quasiment la trentaine quand même.
Bah oui, la fille qu'on entend là,
on est en 2013.
Jane. Ouais, mais Jen, elle courait avec moi quand je faisais les Coupes du Monde avec le cash dans les enveloppes. Luc, qu'on entend, on était dans les mêmes teams et on faisait les mêmes déplacements à l'époque où je fumais des pétards. Donc eux, ils sont retraités et tout. Et moi, je suis là au départ avec mon casque et je viens de reparti mon kiki. Et donc, je représente un peu cette génération, cette toute première génération de freestylers. Donc, je pense que ça leur fait trop plaisir de me voir au départ. Et puis, ben ouais, ça se passe bien pour moi. C'est la dernière course de la saison et c'est très bon augure parce que, comme tu le dis, les Jeux sont l'hiver d'après. Et ça m'a permis de sécuriser ce que j'avais mis en place et de prouver à la Fédé qu'ils avaient bien fait de croire en moi. Et même me dire que, ok, on avait revendu le bar, qu'on a revendu une bouchée de pain pour me permettre de faire cette saison. Que c'était pas pour rien non plus, quoi. Donc,
Et parce qu'après cette victoire, tout le monde se met à croire en ce rêve fou des Jeux Olympiques, toi, mais aussi ton entourage. Et c'est le début un petit peu de la folie Martineau.
Besoin de concentration, rentrer sereinement dans la compétition, trouver sa motivation, être à la hauteur de ses ambitions, tout donner le jour J pour les les JO, le monde rivait sur Sochi, des athlètes au top niveau, chacun de nous derrière nos pays, supporter les nôtres, nous sommes avec toi Marie, sens-tu les ailes dans ton dos, faudra être fort dans ta tête,
conscient de tes capacités, rien n'est
impossible et que
rien ne peut qui signe ce magnifique son et qui nous a permis évidemment de le jouer aussi dans cette émission La Boîte à Souvenirs. C'est
énorme.
Une belle chanson, hein.
Énorme. Ah non, mais
écrite
je suis
pour toi.
Ouais. Bah, donc Seb et Gérald, donc c'est un groupe, un duo qui fait du raga, du hip-hop, du reggae, et ils sont de chez moi. Encore que Seb est un peu parisien, mais ça fait très longtemps qu'il vit dans les Alpes. Gérald vient de Méribel et on était au lycée ensemble et je les adore. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ils ont sorti un album. Je trouve qu'ils ont des textes engagés. Je les kiffe. Donc avec ma toute petite notoriété arrivante, au X, on nous avait demandé si on pouvait mettre la musique qu'on voulait, donc il n'y a pas de gros mots. Et donc j'avais fait 3 runs avec leur son, et forcément, et en plus c'était cool parce que ça mettait en joie mes copains spectateurs en bas dans la raquette, donc ça créait une super ambiance, ça me motivait grave. Et puis j'avais tenu une boîte de nuit, ils sont venus jouer dans ma boîte plusieurs fois et tout, donc pour se mettre dans la bonne ambiance à la maison, j'avais décidé de mettre les trois runs des musiques à eux. Et je pense que ça leur avait fait plaisir, et donc ils m'ont fait la surprise juste avant les Jeux, à l'automne, de m'envoyer une chanson complète qu'ils avaient écrite pour moi. Enfin, c'était ouf, trop d'honneur. Et en plus, je la trouve cool. Et voilà, c'était un beau cadeau, mais je les ai toujours... je trouve qu'on a évolué un peu en parallèle. Au moment où moi, je reprenais le ski et où ça marchait pour moi, eux, ils ont fait un album, 2 albums, ça a commencé à marcher pour eux. Et donc, voilà, on est amis, quoi.
Et puis, un groupe de supporters a même été créé, I Love Marie.
Oui. Ben, parce que pour aller à Sochi, ça coûtait hyper cher. Et au départ, ils nous annonçaient des tarifs, mais c'était hors de prix. Et moi, ils étaient une quinzaine à vouloir venir me voir. Ben, tu vois bien, mes potos, quoi. Et donc, ils ont attaqué à faire... donc, ils ont monté une association, le fan club I Love Marie. Ils ont attaqué à faire des lotos, des trucs. Ils allaient chercher des lots dans les magasins. Après, on tournait des boules dans la salle polyvalente de la Meridem avec plein de vieux devant des petits jetons. Enfin, ils ont tout fait pour récolter de l'argent. Je pense que maman a dû finir par rallonger pour que le montant total soit financé. Et ils ont débarqué à 13 à Sochi en mode hooligan.
Exactement, un vrai stade de foot, on va en parler dans quelques instants, mais je voudrais revenir, parce que le papier c'est Sochi, c'est sur l'arrivée, justement, ton arrivée à Sochi, tu découvres les Jeux Olympiques. On reviendra évidemment, et on a parlé de cet arrêt de carrière pendant de nombreuses années, tu reviens, tu vas faire les Jeux Olympiques, tu as 30 ans, tu n'es plus la même fille évidemment qu'à 16 ans, ou à 22 ans quand tu as décidé d'arrêter ta carrière. Comment ça se passe cette arrivée à Sochi, parce que tu ne fais pas la cérémonie d'ouverture, tu l'as dit, le ski acrobatique c'est beaucoup plus tard dans la compétition, ça se passe bien ? Tu arrives à te mettre dans ta bulle ?
Oui, on découvre tous. Donc ça, c'est un bon point parce que personne n'a d'avance sur les autres. Tous les freestylers découvrent les jeux. Je me rends pas trop voir les autres disciplines parce que je trouve que c'est la pression, parce que ça fait bizarre d'aller voir tes copains et de te mettre, et ça me fait encore plus flipper que pour ma propre poire. Donc je vais pas trop, je suis hyper focus avec le prep physique, on est hyper focus sur mes temps de repos, la gestion de ce que je mange, la gestion de mon sommeil, et puis, ça se passe relativement bien. Le pipe est moisi parce que la neige est d'une qualité assez catastrophique. Et donc, les shapers, malgré tout leur talent, ils n'arrivent pas à entretenir un pipe correctement. Donc, le pipe est vraiment pas top. Et ça m'avantage parce que vu que je viens d'une génération où les pipes, au départ, ils étaient faits à la main. Donc, ils étaient assez bossés.
La première génération de freestyler.
Eh oui. Du coup, ça me gêne moins de devoir m'adapter à un pipe qui a des courbes toutes changeantes, qui a un fond qui est tout mou. Donc, j'arrive quand même à produire mes runs et à sortir mes runs dès le début des entraînements, alors qu'il y a pas mal de filles qui sont toutes perdues parce qu'on n'est pas dans le super pipe américain. Parfait, qu'on a skié 3 semaines avant au X Games.
Tu viens quand même avec un préparateur mental. C'est-à-dire que c'est quand même si c'est la première fois que le ski acrobatique est présent aux Jeux Olympiques, toi, t'es focus.
Je suis focus parce que un des animateurs du fameux loto de I Love Marie me dit « Tiens, j'ai rencontré un mec hyper intéressant, passe lui un coup de fil, tu verras, peut-être qu'il peut t'aider. » Et c'est vrai que 6 mois avant les Jeux, je l'appelle, Éric Pession, et je vais le voir, et ça match super. Et en fait, on attaque...
sans se mettre de pression, sans se dire « ça y est, j'ai un prep mental et tout », juste on attaque à philosopher, je vais le voir, on discute pendant des heures sur ma vie, sur mes aspirations et sur des façons de me poser et tout. Et en fait, ça devient hyper important et effectivement, je pense que j'arrive armée au jeu grâce à ça.
Bah justement, Éric Pession, il a écrit un message qu'il voulait te livrer aujourd'hui dans ta boîte à souvenirs.
Sochi, après 7 ans d'arrêt à tenir sa boîte de nuit ou son bar, là, c'était quelque chose de plus difficile parce qu'elle était, c'était un vrai défi. C'était un vrai défi de revenir au niveau après un tel arrêt. Elle a eu un petit coup de mou 2 jours avant l'épreuve. Il y avait des agitations autour de nouvelles figures que pouvaient avoir proposé les Nord-Américaines, si je me rappelle bien. Et moi, je lui avais dit, bah, écoute, de toute façon, ça ne sert à rien de te stresser. Reste focalisé sur toi, fais ce que tu sais faire. Elle avait vraiment su dépasser ça. Vraiment, Marie, elle rebondit très, très vite, en fait. Vraiment, elle est lucide sur les problématiques et rapidement, elle rebondit, quoi.
Bon, ben voilà, heureusement qu'on l'a écouté. Il y avait un petit peu de problème. Il y avait un petit souci.
Non, tu as raison, maintenant qu'il en parle. En Chambray, on était à deux. J'étais avec Anaïs Caradeu, la deuxième française, qui, elle, n'était pas très sereine. Elle avait mal un genou, il n'y avait rien qui allait. Et elle avait comme coach une Américaine. Et il y a eu un jour où, je ne sais pas, elle est revenue dans la chambre avec la coach américaine et elles se sont mises à discuter sur le lit des runs qu'elles pouvaient lancer le lendemain pour les qualifs, en parlant de figures complètement loufoques, des trucs que je ne l'avais jamais vu faire, en mode, tu sais, comme si elle lançait les dernières cartes qu'elle pouvait avoir en main et tout. Et mine de rien, quand même, au bout d'un moment, de les entendre, parce que même si je ne voulais pas écouter, j'entendais, ben, ça m'a monté en pression et je me souviens très bien être sortie de la chambre et avoir appelé Eric pour lui dire, écoute... parle de ça, de tel trick, putain, si vraiment elle fait ça, mais elle est imbattable et tout. Et là, il m'a dit, arrête tout de suite. Dis-toi bien que si elle est là, en train de s'imaginer des runs qu'elle a jamais fait à 24 heures de la compète, ben, c'est qu'elle n'est pas prête. Et ne te laisse pas embarquer là-dedans. Reste, c'est vrai, il m'avait bien dit ça, reste focus sur toi. Et c'est ce que j'ai fait. Hein, je me suis reconcentrée sur ma technique, ce que j'avais à faire moi. Et puis, c'est passé. Hein.
Et nous sommes le 20 février 2014, le groupe de supporters est là, les hooligans, le vrai stade de foot. Julien, d'ailleurs, un des supporters habillés, est là, il s'en souvient de ce stade bouillant.
Dans l'air du pipe, les riders nous entendaient depuis le haut. Quoi. Je me souviens même qu'il y avait une des riders qui avait dit à Marie « qu'est-ce que c'est ce stade de foot qui arrive en bas ?» quoi. Donc c'est vrai qu'on avait passé de bons moments. Et puis, franchement, on a donné de la voix. Je crois que sur la quinzaine qu'on était, il y en a bien 10 qui sont revenus sans voix. Quoi. Donc vraiment, vraiment, vraiment bonne ambiance. Après, vécu des choses inoubliables là-bas. Et puis, comme je leur dis, la médaille est venue parfaire tout ça. Quoi.
Et parce que tu arrives un petit peu de nulle part, Marie. Et ouais. Tu vas gagner les qualifs.
Ouais, en fait, c'est vrai que la saison, donc ma toute première saison de Coupe du Monde juste avant, bon, j'ai fait, je pense même pas avoir fait de podium jusqu'à ce que je gagne les X, j'avais pas spécialement podiumé. Là, le début de saison tranquille, disons que beaucoup des attentes étaient portées sur Anaïs justement parce que l'année d'avant, elle avait fait 2 au championnat du monde, donc les médias se tournaient plus vers elle. Elle était considérée comme dans les athlètes médaillables et tout. Alors que nous, on savait en interne, on savait très bien avec Greg que si je plaquais mon run propre, j'avais de grosses chances de podium. Donc c'est vrai que j'étais pas spécialement regardée, épiée et attendue, ce qui était vraiment cool pour des premiers jeux parce que du coup, j'ai fait mon truc un peu incognito. Et oui, et finalement, ça se passe bien. Et je me souviens très bien je me souviens de ce qu'il dit là, quand il dit les ricanes, elles avaient pris peur, quoi, parce que personne n'était venu en territoire ennemi, en Russie, avec son fan club, quoi. J'étais la seule à avoir 15 personnes en bas et en bleu, blanc, rouge, avec des banderoles, on se serait cru à la maison, quoi. Et ça leur avait fait peur, aux filles. Ils hurlaient. Ils se sont dégosillés.
Tu gagnes les qualifs. Et là, évidemment, tu t'apprêtes à René pour... on dit ça, René ?
Ouais.
On dit René, mon ami René.
Mon ami René.
Pour ton pipe, ouais. Pour la finale. Incroyable. Mais là, il se passe quelque chose d'étrange dans ton corps entre la qualif et la finale. Déjà, c'est long l'attente.
Ah ouais, déjà, c'est long. Il y a 1 heure d'attente, donc c'est très long. Puis on n'a jamais ce format-là. En fait, sur toutes nos Coupes du Monde, tu as les qualifs un jour et les finales le lendemain. Et là, ils nous avaient tout regroupés sur le même jour. Donc On finit les qualifs. Effectivement, j'ai gagné les qualifs. Alors, super. Ça veut dire que tu pars en dernière sur les finales. J'ai jamais trop aimé ça parce que ben, tu regardes toutes les autres partir devant toi. C'est très chiant. Une heure d'attente parce qu'ils rechèpent le pipe, ils font propre, ils remettent du bleu, tout ça. Il y a des pubs à la télé. Donc, voilà. Et donc, une heure à devoir ben, continuer à faire descendre le stress, gérer le truc, que tout reste en bas, pas te faire prendre par la pression. Et puis, tu es juste à deux doigts d'être championne olympique. Tu as gagné les qualifs. Mais gagner les qualifs, ben, tout le monde s'en fout, quoi. Donc ça sert à rien à part te mettre bien la pression. D'après Greg, ça sert parce que ben, ça te met déjà là, et pour les juges ça veut dire que pour l'instant t'es quand même dans le tableau, dans le haut de la fourchette et tout. Bon. Et j'arrive en haut du pipe pour ces finales et là mais les gens ils vont me prendre pour une folle aussi là.
Dis toujours.
Ouais. J'ai eu l'impression de sortir de mon corps, j'ai eu l'impression d'être au-dessus, d'être missionnée. Je savais, et ça peut paraître prétentieux, donc c'est un peu difficile à admettre aussi, mais je savais que ça allait très bien se passer pour moi. J'étais missionnée, j'étais plus dans mon corps, j'étais un peu... mais les mouvements se faisaient tout seuls, j'avançais, je mettais mon masque et tout, j'arrivais dans le portillon de départ, et je crois même que je l'ai dit à Greg, j'ai dit « putain, tu vas me prendre pour une cinglée, je suis plus dans mon corps et tout », il m'a dit « ouais, bah d'accord, ouais, super !» Et mais voilà, tu vois, ça l'a fait marrer. Il m'a dit, non, elle nous fait encore un passage. Et alors que moi, je suis intimement persuadée d'avoir été en contact direct avec Éric Pession. Du reste, c'est la première personne que j'ai appelée à la fin de la compète. C'est lui pour lui dire, qu'est-ce que t'as fait? C'était quoi ce truc? Est-ce que tu l'as vécu comme moi et tout? Est-ce qu'il bosse beaucoup sur les énergies? Et c'est la seule et unique fois de ma vie où ça m'est arrivé. Mais j'ai fait des runs... je sais pas, en lévitation, un peu, c'est hyper difficile à expliquer, puisqu'en plus, je m'y attendais pas, à un moment où c'est quand même tout va très vite et tout, et puis ça m'est jamais arrivé. Donc
Nous sommes le 20 février 2014. Marie Martineau n'est plus dans son corps. Elle s'élance pour la finale avec une voix que tu vas certainement reconnaître.
C'est parti pour Marie Martineau. Le premier saut, ce sera un Cork Five Tail. Va-t-elle s'élever très très haut dans le ciel de Sochi? Oui, c'est pas mal fait. La dernière figure, peut-être maintenant, elle va tout donner. Ouais, double ou triple rotation. Elle a fait impression avec cette dernière figure, Marie Martineau. Et elle fait tourner les bâtons en l'air. Elle est ravie, évidemment. Elle est assurée de la médaille. Marie Martineau qui ne sera pas championne olympique, mais qui décroche malgré tout une magnifique médaille d'argent.
Je crois que la vie, elle est comme ça. Il faut se faire plaisir. Et si tu fais les choses par plaisir, l'envie est là.
C'était Christophe Cessieux.
Mais oui, elle fait tourner les bâtons, ça va toujours rester. Double rotation, le tail.
Et il commence ça comme la kermesse.
Non mais il est énorme, parce que pour le peu, il connaît pas grand-chose à ce moment-là. Et bon, bah, on y croit quoi, on y est. Hein.
Ouais, mais il te fait vivre l'émotion, c'est Christophe Cessieux. Exactement.
Super.
Et toi, l'émotion justement, quand tu arrives, tu n'es que deuxième au final. Ce qui est génial, forcément, mais t'es pas championne olympique.
Ouais, je suis pas championne olympique, et en même temps, j'oublie absolument pas d'où je viens. Deux ans auparavant, j'essuyais des verres et j'écoutais des gens me raconter leur malheur, je faisais mes courses à Lidl, et c'est très bien Lidl, mais j'en avais marre d'acheter des produits pas forcément de qualité. Enfin, j'oublie vraiment pas le parcours et je me dis, je peux pas être déçue d'être vice-championne olympique. Enfin, il y a un moment donné, il faut garder les pieds sur terre, quoi. Alors oui, je suis pas championne olympique, mais en même temps, à ce moment-là, mince, tu vois, j'ai rempli le contrat, quoi. Donc non, j'ai aucun remords, aucun regret, je suis happy, quoi.
Tu es heureuse. Un nouveau papier dans la boîte à souvenirs avec Marie Martineau sur RMC. Je te laisse piocher dans cette boîte.
Le ski, c'est pas un métier. Eh oui.
Qui dit ça?
C'est mon papa.
Ton papa Bruno.
Ouais.
Tu en as parlé tout à l'heure, qui est décédé aujourd'hui. A toujours considéré ton sport comme un loisir, pas un métier, pas un travail,
ouais.
Pas un vrai travail.
C'est une question de génération, je crois. Il me voyait avocate, j'étais brillante à l'école, et il me voyait faire un truc de fou, et peut-être c'était décevant au départ finalement de se dire que ben, j'étais juste une fille qui fait des cabrioles et qui gagne trop facilement sa vie quand elle était petite. Après, je pense que j'ai un peu regagné son estime par le fait d'avoir eu toute cette période de travail au Côte d'Or, et quand j'y suis retournée... Je pense que sa vision du sport avait peut-être un peu évolué. Il s'était un petit peu détendu aussi sur ses attentes vis-à-vis de moi. Et puis la vie avait fait son chemin, quoi. Et c'est vrai que quand je fais la médaille olympique, c'est la deuxième personne que j'appelle. Après cette histoire de lévitation, j'appelle mon père quand même, qui n'était pas venu. Maman était venue, ma soeur était venue. Mais
pourquoi lui, il n'est pas venu?
Oh, parce qu'il ne pouvait pas.
Il ne pouvait pas voir sa fille dans le pipe.
Ouais, il m'a dit prends-le pas mal, parce que j'ai gonflé un moment. J'ai dit allez, mais papa, viens, je vais faire un truc cool, tu verras et tout. Et il était là, non, je ne peux pas. Je crois qu'il avait peur que je me fasse mal, vraiment. Je me mettais en danger pour lui et il ne voulait pas me faire chier avec ça. Et il voulait bien me laisser vivre ça, mais c'était trop pour lui. Il a même pas regardé, hein. Il s'est assis sur les marches, on me l'a raconté après, de la mairie et il a attendu que ça se passe parce que dans la mairie, en conseil municipal, tout le monde était sur les écrans pour me voir passer et il lui voulait pas, donc il a attendu dehors jusqu'à ce qu'il y en ait un qui sorte pour lui dire elle est deuxième, c'est bon. Donc ça va, je m'étais pas fait mal. Donc oui, et donc pour lui, c'était pas un métier. Après, quand il a vu les retombées de l'olympisme, les contrats que j'ai pu négocier derrière, quand je l'ai amené à l'Élysée, grandiose. On est convoqué à l'Élysée pour la remise des médailles. J'ai reçu une médaille des mains du président de la République. Il était là. Là, il s'est avoué que c'était peut-être bien un métier ou en tout cas, on avait le droit de... peut-être pas commencer de travailler à 14 ans pour faire que ça toute sa vie, quoi.
Parfois, rapport compliqué avec le papa, vu que bon, il rêvait peut-être d'autre chose pour sa fille, en tout cas quand tu étais un peu plus jeune. Tu savais s'il était fier de toi, Marie Martineau, la skieuse?
Non, j'ai pensé pendant très longtemps qu'il n'était pas fier de moi. C'est dur. J'avais, je pense, 15 ou 16 ans et je vais pas y arriver. J'ai discuté avec ma tante Marianne, qui est sa plus jeune sœur, et avec qui il n'avait pas forcément des rapports géniaux en plus. Et moi, c'était ma tatante préférée. Et je sais pas, je dis, je crois que papa, il est pas fier de nous, quoi. Il nous aime pas, tu sais, je sais pas, il y a un truc qui doit pas passer, j'en sais rien. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais vous êtes sérieuse, les filles, et ma sœur qui était là, elle me dit, mais votre père, il parle tout le temps que de vous. Et j'ai dit, mais c'est quoi cette famille de cons où en fait, on dit aux autres qu'on est fiers de ses enfants et on leur dit pas à eux, tu vois. Et... Oh. Bon. Du coup, je pense que je dis à ma fille que je l'aime à peu près 15 fois par jour. Parce que c'était fou d'avoir 15 ans et d'avoir pas compris ça, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ça m'assure tellement construite, tu vois. Et puis... Puis ça fait de moi ce que tu vois. Je pense que cette envie débile de vouloir toujours être la plus rapide, la meilleure, la plus forte, celle qui a la meilleure note à l'école, celle qui était devant au concert. Enfin, tu vois, je pense que cette envie, elle vient vachement du fait que peut-être j'avais une revanche à prendre, tu vois.
On va écouter Françoise et Charlie justement sur ton papa qui parlait beaucoup de toi.
Fier, c'est plus que fier, oui. Il lui envoyait toujours des jetons, tu vois, des petites vannes, des machins, mais en fait, c'était juste pour la piquer. Mais oui, il était fier d'elle.
On le savait parce qu'il en parlait à plein de gens. Tu sais, on vient quand même de stations de ski, donc tout le monde connaît tout le monde. Et du coup, il y avait quand même toujours des gens pour venir te dire « Ah, j'ai croisé votre père, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça, oui. »
Il le disait à tout le monde, il dit « Mais c'est à ta fille qu'il faut le dire, c'est pas à tes amis, à tes potes et à la terre entière. Dis-le simplement à ta fille déjà que tu es fière d'elle. »
Ah ouais. Bon, après, ça a été réglé, hein, parce que... Alors, un peu tard, hein, c'est con, hein, mais parce que quand il a su qu'il allait partir, forcément, on a eu des discussions plus profondes. Et donc, j'ai au moins la chance d'avoir... perdu mon papa en ayant eu les bonnes discussions et en sachant à quel point il m'aimait. Donc du coup, je vis forcément beaucoup mieux le deuil que si on n'avait pas discuté ou si c'était s'il était mort d'un accident et qu'on n'ait jamais tiré ça au clair, quoi. Donc,
bon, il faut dire que tu lui en as fait voir de toutes les couleurs quand même, hein, si je te dis janvier 2008.
Oh là là, 2008. Oh, vous êtes dur déjà. Attends, j'avais quel âge en 2008?
Alors si je te dis en 2008, tu avais
84
ans.
84, ouais, ok.
Si je te dis, elle a souvent froid, mais elle va vous donner des rougeurs, Marie des Neiges.
Ok, vous voulez vraiment qu'on parle de ça?
C'est quoi ça?
Non mais t'es abusé. Il y a des gens, ils vont aller chercher maintenant sur les internets et tout. Eh bien écoute, c'était l'attaché de presse de Dynastar qui m'appelle en me disant « Écoute, il y a New Look qui nous a contactés, ils veulent faire un article. » C'est de ça qu'on parle, hein,
on est
d'accord?
Olé olé. Ouais. On peut le dire, oui, c'est ça, c'est de ça dont on parle.
Alors le truc,
bah, c'est un lien avec ton papa à un moment
oui,
donné.
Oui, bah, alors doublement. Déjà parce qu'il y avait plein de New Look à la maison, parce que, alors je ne sais pas s'il faisait des trucs cochons avec maman ou si il y avait plein de reportages dedans et que c'était assez...
Oui.
Il y avait toujours des trucs cool
oui,
en marge de ça. Je jure, j'ai des souvenirs de crocodiles qui avaient mangé des habitants. Et
bien
tout,
sûr, oui, oui.
Bref.
Je, me souviens,
donc,
mais
bon. Je connaissais très bien New Look, je savais où je mettais les pieds et elle me dit, ils veulent faire un interview d'une sportive. Alors du coup, je dis, ok, super, mais tu négocies, je veux autant de photos de ski que de photos de mon cul. Elle me dit, ok, ben, je vais voir ça. Et donc, elle arrive à leur négocier ça, donc super, et je descends à Marseille faire des photos pour New Look. Ils tiennent parole et ils mettent autant de photos de ski que de photos de mon cul. Et en l'occurrence, c'était un énorme tirage New Look à l'époque. Hein. Et je veux dire, moi, pour négocier mes contrats à l'époque, c'était autant les résultats sportifs, mais surtout tes retombées presse. Et quand on voyait Dynastar écrit en énorme sur 14 pages de suite, ben c'était cool, tu vois. Et... Mais donc, c'est vrai que quand le magazine est sorti, oh, je crois, il a pris la voiture et il a fait le tour de toute la Tarentaise, de tous les kiosques. Et il a acheté tous les bouquins pour être bien sûr que personne ne puisse l'acheter, quoi. Non, un truc de fou. Mais bon, enfin, j'ai pas le souvenir que ça... Enfin, voilà, je pense qu'il était vert, mais voilà, on en rigolait. Il a jamais été strict ou pénible ou... je sais pas comment le définir. En tout cas, il a... Ouais, il m'a jamais fait me sentir mal ou il m'a pas dit que j'étais une traînée ou quoi que ce soit, tu vois, pas du tout.
Oui, mais
il a géré son... Ben, il a géré son truc de son côté, ben, voilà. Mais il m'a pas embêté.
Donc ça veut dire que si je viens chez toi aujourd'hui, dans le garage, normalement, j'ai 5000 New Look.
Alors, je sais pas ce qu'ils en ont fait, mais il y en a forcément encore un dans les compilations de ma maman, c'est sûr, oui.
Une relation forte, donc, on l'a bien compris, avec ton papa, même s'il disait que le ski, c'était pas un métier.
Ouais.
Tu lui as écrit une chanson pour ses 60 ans, tu t'en souviens?
Oh là là, oui, 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 oui. Alors, attends, qu'est-ce qu'on avait chanté? On avait chanté ça avec Mélie Rose, je crois.
Avec ta fille?
Ouais. Oh là là, je sais plus ce que c'était. J'aime bien écrire, j'aime bien chanter. Et j'ai toujours fait ça dans les trucs de famille. C'est toujours pour moi, tu sais. Et ça me va bien, j'adore, mais je me souviendrai pas, j'essaie.
C'est vrai?
Non.
On va peut-être te rafraîchir la mémoire, non?
Mais pourquoi ça a été filmé? Ah ouais, ça a été... Ouais. Oh, vas-y.
Certainement.
Fais-moi rêver.
Sur une musique de Charles Aznavour, La Bohème.
Chaque jour tu as sué, prétextant nous ramener de quoi vivre et être heureuse, oubliant les journées, laissant le temps filer et nous saler envieuses d'un papa plus présent qui partagerait vraiment la chaleur de nos corps. Même si j'ai des souvenirs, les absences sont des torts que l'on ne peut pas fuir. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Mais ça veut dire, ça ne se fait pas. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Tu es à la tâche, mon petit papa. Cet équilibre étrange, l'amour, la joie, les louanges, comment serais-tu à le vivre? À 60 ans, papa, la moitié du livre, je suis si fière de toi.
Merci,
ma fille. Oh, ben vous allez me refaire chouiner. Hein. Ben, la moitié du livre, ouais, 2 ans plus tard, il était mort. Hein. La moitié du livre, elle était bien entamée quand même. Mais oui, mais voilà, on aime bien se donner en spectacle. C'est un truc que je partage vachement avec Mélie Rose. Elle aime bien aussi et du coup, on se marre bien. On chante, on danse, on écrit des trucs, on se prend pour des stars, on se dit qu'un jour on ira à The Voice. Voilà, alors que il faut rêver, c'est cool de rêver.
Marie Martineau, dans la boîte à souvenirs sur RMC, nouveau papier avec toi.
C'est le dernier. Bon. Je commence à avoir chaud là, je vous avoue, vous m'avez mis
ça
une bonne
du bien, non?
Ouais, ouais, ça fait du bien, c'est vrai, c'est vrai. Tu penses que je peux faire un truc au JO? Oh! Alors, est-ce que c'est la phrase que j'ai posée à Greg quand je l'ai croisé au supermarché avec sa bouteille de vinasse? je pense
il n'a pas
ça.
Parlé de la bouteille de vinasse.
Mais si, il était venu acheter une bouteille de vinasse.
On va en reparler dans quelques instants de cette rencontre absolument hasardeuse au supermarché. Mais juste avant, pour bien parler des moments forts de ta vie, on a évoqué évidemment cet arrêt de carrière à 22 ans. Et en 2010, tu as 26 ans. Ça fait 4 ans que tu as donc tout arrêté. Tu as une fille de quelques mois. Tu tiens une boîte de nuit. Et à ce moment-là, il y a la Coupe du Monde de pipe chez toi, à La Plagne. Et deux amis qui vont participer à cette Coupe du Monde vont venir te voir pour une raison bien précise.
Ben, donc, il s'agit de Virginie Favre, qu'on a entendu donc, au début de l'émission, et puis Sarah Burke, qui n'est plus de ce monde, qui était une athlète canadienne. Et donc, elles font la Coupe du Monde. Et moi, je vais les voir, mais je vais les voir du pipe avec la petite en landau. Donc, je suis très discrète. Et puis, je repars. Je ne les vois pas là-haut, mais je les ai vus skier. C'était cool. Et elles m'appellent. Oh, on veut passer te voir et tout. Et donc, elles ont fini la compète, les contrôles antidopage, les podiums et tout. Et elles passent à la maison. Et elle commence à me tanner en mode « Oui, il va y avoir les Jeux Olympiques. » Sarah me dit « Écoute, j'ai fait partie de toutes les commissions de travail sur le sujet au CIO. C'est pas officiel parce que ça n'a pas encore été rendu officiel, mais je peux te le dire, ça l'est. Il faut que tu t'y remettes, il faut que tu reviennes et tout. Ce serait quand même génial. Oui, moi, je leur dis les filles, c'est adorable, vous êtes trop choux. Ça me fait trop plaisir de vous voir passer. En plus, je ne voyais vraiment plus personne du monde du ski. » Je dis, mais vous ne vous rendez pas compte, je vis la nuit, je ne dors pas le jour, j'ai une césarienne, je fais 44 kilos, ça va être très très compliqué. Enfin, je ne voyais pas le truc, quoi. Donc elles sont reparties un peu bredouilles, mais l'idée avait été plantée, elles avaient planté la graine.
Virginie Favre s'en souvient.
C'est vrai ?
Oui. Hein ?
Au début, je l'ai laissé tranquille. C'est vrai que lorsqu'on a appris que notre sport allait devenir une discipline olympique, j'ai commencé un peu à la titiller parce que, ben voilà, compétitrice comme elle était. Et puis, j'avais envie de partager cette expérience incroyable avec elle. On partait avec Sarah en Autriche. Sur la route, je me suis dit, bah, c'est encore l'occasion d'aller rajouter une petite dose et puis encore une fois, essayer de la convaincre. Sur le moment, elle se marre et je pense que ça n'a pas été instantané. Enfin, en tout cas, elle ne nous l'a pas dit clairement « oui, je reviens ». Parce qu'elle elle m'a rappelé plus tard, ça a fait du chemin dans sa tête.
La petite graine était plantée, c'est ce que tu viens de nous dire, et il y aura deux déclics. Le premier déclic, tu vas avoir un accident de voiture avec ta fille, Millie Rose, dans la voiture.
Oui. L'année d'après, à l'automne d'après, je me fais percuter en voiture, on fait des tonneaux et je finis dans l'Isère, qui est le fleuve au fond de vallée à côté de chez moi. Et puis, ils mettent trois quarts d'heure à me désinsérer de la voiture et j'ai un bras très abîmé. Et puis, je passe, au lieu de passer 6 mois en saison à tenir le bar, je passe 6 mois au centre de rééducation à Grenoble. Je découvre autre chose. Je fais un chemin psycho qui, en gros, se résumerait par il peut tout se passer dans la vie, en mal comme en bien, a priori. Donc, après tout, rien n'est impossible. Et si tu t'y remettais, et pourquoi pas, tu vois. Et après tout, si tu tentes pas, en tout cas, tu auras des regrets. Et vaut mieux avoir des remords que des regrets, m'a-t-on raconté quand j'étais assez jeune.
Et ta maman, Françoise, se souvient forcément parfaitement de ce jour de l'accident.
C'est elle qui a gardé la petite tout l'hiver, quoi.
On l'écoute.
Elle était au bureau, elle devait venir le matin, et puis elle n'était pas là. Et là, elle n'arrive pas. Et puis d'un seul coup, j'ai un coup de téléphone et qui me dit que Marie a eu un accident. Alors, je ne comprenais pas parce qu'elle était à côté, quoi. Donc, je prends ma voiture, je vais voir. Et en fait, voilà, la voiture, elle était complètement retournée dans l'Isère. Heureusement, le niveau était bas, sinon elle allait se noyer. Et elle était coincée. Elle était avec Mélie Rose, qui était petite. Elle devait avoir 2 ans par là à l'époque. Alors, elle était coincée. On ne pouvait pas l'enlever. Son bras était coincé par la portière. La voiture était de côté. On a réussi à ouvrir une porte et à sortir la petite, qui n'avait rien. Et elle était coincée. On avait un autre ami qui était à côté, qui avait un camion grue, qui aurait pu nous suivre la voiture, mais ils n'ont pas voulu. Donc, ce qui aurait pu être fait en un quart d'heure et il n'y aurait pas eu de séquelles dans le bras de Marie, et ben, ça a pris, 2 heures peut-être. Et pendant 2 heures, elle est restée coincée et voilà.
Et ton bras totalement en lambeaux. Et pourtant, toi, tu te dis que c'est peut-être un signe.
Ben,
Je suis quelqu'un de positif. Alors sur le coup, ben voilà, j'étais pas fière d'aller en centre de réduc. C'était Noël, on me dit faut rester là. Enfin non, c'était vraiment pas cool. Mais ben je prends ça encore comme un défi. Peut-être faut que je vais être la meilleure. Donc je me dis ben ils me disent que ma main elle va se réouvrir de 30 degrés et qu'elle sera comme ça. Et ben moi je me dis ben je vais tout faire pour qu'elle finisse par s'ouvrir droit. Et puis on me dit t'auras plus de force. Et ben je vais bosser comme une débile, mais je vais reprendre de la force. Puis on me dit ben l'appréhension fine, donc après attraper des petites pièces ou une tête d'épingle, ça sera quand même pas possible. Et ben je le fais quand même. Et puis on me dit on t'a rattaché tous les doigts ensemble au niveau des muscles dans le bras, donc tu pourras plus pianoter par exemple. Et moi je jouais du violon et je me dis bah si, je referais du violon et je refais du violon. Je vois ça comme un défi, mais bon, au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure que je progresse physiquement, bah, je crois que je progresse surtout vachement mentalement. Et je finis par me dire mais en fait, j'aurais pu mourir, ma fille aurait pu mourir. Non, la vie c'est trop court, il peut arriver des trucs, je ne profite pas assez des qualités intrinsèques qui sont les miennes et de ce que m'a donné la vie et de ce qu'elle a eu la gentillesse de me donner au départ, et je dois y retourner.
Ça, c'est le premier déclic pour le retour à la compétition.
Ouais.
Le deuxième, c'est malheureusement le 19 janvier 2012 et la mort de Sarah Burke, celle qui était venue te convaincre de revenir à la compétition.
Loss of Sarah Burke. She's now being remembered as a great competitor who also brought glamour to freestyle skiing.
This is absolutely devastating, not just for her family and friends, but for the ski community that treasured her fearlessness and her love of life.
C'est une grande championne canadienne de halfpipe qui se tue à l'entraînement. C'est forcément une tragédie pour le monde du ski.
Bah c'est une double tragédie. Tragédie pour le monde du ski, tragédie pour le Canada, qui s'est battu pour l'entrée du pipe au jeu. C'était écrit que Sarah Burke serait championne olympique. Elle avait un cran au-dessus des autres. Elle avait fait partie de cette toute première génération, hein, la mienne. Voilà, c'était l'apogée de la naissance de ce sport jusqu'à toucher l'olympisme, donc être validée parmi les grands sport. Et puis jamais personne ne s'était tué dans un halfpipe. Et puis peut-être que ça n'arrivera plus jamais, je touche du bois, mais enfin je veux dire, les circonstances de l'accident étaient incroyables. Et donc c'est la douche froide, surtout que l'accident a lieu et puis elle reste 10 jours dans le coma. Donc pendant 10 jours avec Virginie, on s'appelle une fois par jour. Elle me dit si elle a des nouvelles, si elle a pas de nouvelles, comment ça se présente et tout. Et puis ça se présente pas bien. Et puis plus les jours passent et moins ça se présente bien, quoi. Et jusqu'au moment où elle m'appelle, elle me dit écoute, Rory, donc le mari de Sarah à l'époque, a décidé de la débrancher. C'est fini, quoi. Alors là, c'est la douche froide. Et puis très vite arrivent les problèmes d'argent, les assurances qui couvrent pas son décès. Elle a été transportée en hélicoptère du pipe à l'hôpital de Salt Lake. Enfin, derrière, il y a plein de problèmes. Donc tout de suite, on se mobilise pour trouver de l'argent. Et puis en fait, je me dis ben là, c'est bon, je suis obligée d'y retourner en fait, parce que je lui dois bien ça. Elle est venue me chercher. Je leur devais bien ça, à Virginie comme à elle. Et elle était plus là pour pouvoir le voir, et donc je me suis dit je dois lui faire cet honneur de représenter cette génération là, de tout faire en tout cas pour y arriver, et puis je dois bien ça à Virginie aussi qui a fait beaucoup d'efforts pour me ramener dans le giron du ski, quoi.
Tu vas donc croiser, ça y est, c'est sûr, tu vas repartir, tu vas revenir à la compétition après plusieurs années, 6 ans, où tu n'as pas skié, tu n'as pas mis les pieds sur un ski.
Ah, quasi.
Mais tu décides, à quasiment 30 ans, d'y retourner. Et lors d'une balade dans un supermarché, tu vas croiser ton entraîneur de l'époque, Greg Guenet, et il s'en souvient.
À cette époque-là, je l'ai croisé dans un supermarché. Elle me choque comme ça, et elle me dit « Salut Greg, on discute un peu, etc. » Et elle me dit « Voilà, j'ai vu que notre sport faisait son apparition au JO. Est-ce que tu penses que je serais capable de te faire un truc au JO ?» Je lui réponds qu'il y a sûrement un truc à faire. Par contre, il va falloir se mettre au boulot. Et si on le fait, on le fait sérieusement. Et puis si on le fait, même si ça peut paraître prétentieux, si on le fait, tu m'écoutes.
Oui, parce que tu as encore ton bar. C'est-à-dire qu'il faut gérer le bar et le retour à la compétition.
Oui, à ce moment-là, quand je lui pose cette question, j'ai encore parmi les skis. Je ne suis pas allée dans le pipe du tout, mais j'ai besoin qu'il me dise. Et là, c'est l'occasion. Je tombe sur lui au supermarché. voilà, c'est la vie qui est faite comme ça. Donc, et le fait qu'ils me disent oui, moi je pense que c'est possible. Tu vois, il avait une vision du niveau des filles. Moi, je regardais même plus, je regardais même pas la télé, je savais rien. Et il me dit oui, je pense que c'est possible effectivement. Mais ouais, il y a du taf et il va falloir faire ça bien. Mais il me dit je suis là. Si tu veux t'y remettre, écoute, tu m'appelles et on voit comment on peut s'organiser. Donc, j'ai recommencé tranquillement par mettre mes petits skis et aller au Pipe à Tignes toute seule de mon côté, voir déjà comment je me sentais. Mais très vite, je l'ai rappelé pour qu'on puisse skier ensemble.
Le Pipe le matin, le bar l'après-midi de 16h à 22h. Et puis, il y a ces deux compètes en France qui vont te permettre de te mesurer, parce que tu reviens, mais à quel niveau tu es, c'est tu ça. Ne sais pas encore. Tignes et La Plagne, ouais. Et tu gagnes.
Et je gagne et d'abord l'une, et puis on arrive à La Plagne et je gagne l'autre. Et donc, alors, c'est des compétitions qui ont un niveau européen. Et puis, Virginie me les avait conseillées parce que, déjà pour ne pas me faire peur. Et puis, parce que les pipes avaient changé entre le moment où j'avais arrêté et maintenant. On était passé de pipe à super pipe. Ils avaient pris peut-être 1,50 m de plus en hauteur. Et elle m'avait dit, ça fait quand même une sacrée différence avec ce que tu as connu. Et donc, au moins, sur les petites compètes internationales, les standards ne sont pas imposés. Donc, tu n'auras pas des super pipes énormes. Et donc, elle avait encore une fois eu raison. Et donc, c'est vrai que je suis allée faire ces deux compètes-là où il n'y avait pas non plus le gratin international. Et ça m'a mis en confiance. Ça m'a permis d'avoir des petites billes pour aller négocier chez Decathlon. De leur dire, ben voilà, j'ai besoin de sous pour faire une saison pré-olympique. J'ai 30 ans et je reviens de nulle part. Bon, il fallait quand même être un peu culotté. Hein.
Oui, et puis en plus aussi au niveau des instances. C'est-à-dire que l'équipe de France, tu lui as tourné le dos à 16 ans.
Ouais, et ben là, pareil, je tombe sur... Donc, je m'inscris au championnat de France. Il y avait encore, à cette époque-là, un championnat de France de pipe. Et je m'y inscris. Et je les gagne aussi. Parce que c'était pas assez prestigieux. Et qu'Anaïs Carrado, elle n'était pas venue. Ou peut-être qu'elle avait...
Qui était la numéro 1 à l'époque française. Ouais.
J'aurais dû être vice-championne de France, qui ne veut dire rien du tout. Mais là, elle ne vient pas et donc je gagne. Donc, j'ai aussi cette petite carte à la Fédé de dire, bon, ben, je suis quand même championne de France. Mais je reçois un accueil hyper positif et une envie d'y aller de la part de Fabien Bertrand, le directeur des sections freestyle. Et il me dit, ben moi, ce que je peux faire déjà pour te préparer pour la saison de Coupe du Monde à venir, c'est au moins de te mettre à dispo un prep physique parce qu'il va falloir te requinquer donc, physiquement. Donc du coup, ça attaque comme ça. J'ai déjà un prep physique à disposition à Albertville et j'y vais 3-4 fois dans la semaine. Pour essayer de redevenir une athlète. Quoi.
Marie qui a tourné le dos à l'équipe de France, Fabien Saguez, le DTN du ski français, se souvient de ce moment où tu lui annonces ton retour.
Les gars sur le freestyle viennent me voir, me disent « Marie Martineau va revenir à la compétition, on ne sait pas trop comment faire, on a un groupe qui est bien constitué ». Et puis assez rapidement, je pense que Marie, elle continue à s'entraîner, elle est déterminée et à ce moment-là, ça déclenche le fait que le groupe dit bah, oui, il y a des choses qui sont possibles.
Il y a des choses qui sont possibles et ils ont bien fait de t'écouter. Tu as bien fait de repartir parce que tu auras deux médailles olympiques.
Bah oui, mais alors encore, il aurait fallu. Enfin, personne n'aurait imaginé ça. J'étais un ovni. Hein. C'était hyper particulier de me mettre dans une case. Normalement, voilà, t'as un parcours classique, tu es jeune et puis tu montes et les comités et les équipes de France et puis les coupes d'Europe, les coupes du monde. Là, c'était hyper compliqué de me gérer. J'étais autonome. Il n'y avait pas vraiment une équipe de France en tant que telle. Il y avait ce Frisky Project qui évoluait, qui marchait très bien, qui était autonome financièrement quasiment. Donc, j'étais un peu. Je pense que ça n'a pas été simple pour eux. Mais encore une fois, pareil, ils ne m'ont pas fait ressentir. Quoi. Ils m'ont dit ski, de toute façon, c'est par les résultats que tu acquerras notre respect. Quoi.
RMC, la boîte à souvenirs,
la sortie de boîte.
Et voilà la vie de cette championne Marie Martineau, c'était la boîte à souvenirs, mais l'émission n'est pas encore terminée, car tu le sais, quand on sort de boîte, plus que quiconque d'ailleurs, tu le sais, il peut y avoir quelques surprises, on va passer à l'interrogatoire.
Ah.
Quelques questions à te poser, réponse du tac au tac. La skieuse que tu détestais, Marie?
J'aimais pas trop les Rikens parce qu'elles sont pas très sympas.
Voilà, elles sont loin, personne n'en parle, bravo, ça c'est du courage, Marie Martineau, tu m'as habitué à mieux quand même. Ta plus grosse cuite?
Ma plus grosse cuite, c'est le nouvel an l'année dernière. Au JC, j'étais tellement saoule que je me souviens pas avoir fait le fameux 3, 2, 1. J'étais ivre morte
avant.
Avant.
Ouais. Très bien. L'épreuve de Coupe du Monde que tu préférais?
Tigne devant toutes les autres.
Ton plus gros gain en course ?
Ben, c'est les jeux parce que j'ai cumulé la prime de l'État. Avec, j'avais négocié des primes de course sur mon, avec mon contrat de la station. Tu veux le montant ?
Bah oui.
Et ben ça fait 20 plus 20. 40 000.
Ça fait 40. Voilà. Elle ne veut pas le dire, ça fait 20 plus 10.
Ça fait 20KE plus 20KE, 40KE.
Ta pire fois dans un pipe ?
Ben, ma pire boîte, c'est trauma crânien. Je rate un 900. Donc 2,5 tours, j'accroche les skis en haut, donc je rebondis de 7 mètres de haut sur la glace en bas, je frappe la tête, commotion cérébrale, je pars en convulsion, et derrière j'ai mis 3-4 mois avant de m'en remettre avec des vertiges, et du reste je paye encore, hein, j'ai des soucis de mémoire et tout.
Ton record de vitesse en voiture ? Madame la fou du volant.
Bah, en vitesse pure, en ligne, c'est un peu con parce que c'est en ligne droite, mais j'ai dû faire... j'ai dû faire des 2,40, peut-être 2,50.
La dernière fois que tu as pleuré ?
La dernière fois que j'ai pleuré, c'est la semaine dernière. On s'est fait Titanic sur TF1 le dimanche soir. Et non, mais j'ai chouiné. C'était horrible. J'étais dans un état catastrophique. J'avais honte. Désolée. C'est con. Hein,
c'est une réponse comme une autre. Voilà. Ton plus beau moment à RMC ?
Bon, il y a eu des franches rigolades, hein, mais mon plus beau moment à RMC, à date, c'est une émission qu'on avait enregistrée qui sortait un peu des clous pour une émission des Grandes Gueules. C'était une spéciale sur les violences sexuelles dans le sport. Et on avait fait intervenir Sébastien Boël de Colosse au pied d'argile. Et j'ai trouvé ce jour-là, on avait fait une belle émission pour parler d'un sujet grave et délicat. Et donc, on s'était trouvé fiers d'avoir abordé ce sujet compliqué dans une émission qui est censée être plutôt un peu du trash talk ou quoi, d'avoir fait la part belle à ce problème qui était récurrent et important dans le sport.
L'interrogatoire va se poursuivre avec tes proches. Maintenant, on va débuter avec Greg Guenet. Une question pour toi.
Je me demande comment elle se voit dans... Voilà, on va dire que ça va faire à peu près 10 ans qu'on s'est croisés dans le supermarché à M, en Savoie, lorsqu'elle m'a demandé ce que je pensais sur son retour à la compétition. Ben, j'ai envie de lui demander comment elle se voit, elle, dans 10 ans.
Ben, j'espère que j'aurai d'autres enfants. J'espère que je serai toujours dans ma jolie maison et que je serai toujours aussi souriante et heureuse, voilà, et que les gens que j'aime seront à côté de moi en bonne santé. C'est bateau, mais je me satisfais des choses toutes simples de la vie.
Ton amie Virginie Fèvre avait un message à te laisser.
Merci Marie, merci d'être la belle personne que tu es. Merci pour ton amitié sincère qui nous lie. Merci de m'avoir pris sous ton aile parce que sans toi et ton soutien, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. C'est grâce à toi et ton impulsion que j'ai fait une carrière dans le sport. Alors comme dirait la Suisse, merci du fond du cœur, ma cop.
Non mais elle est mignonne, je lui en dois tellement plus qu'elle ne m'en doit, elle est incroyable. Mais bon voilà. Fantastique, je suis entourée de gens géniaux, vraiment, j'ai de la chance.
Ton préparateur mental maintenant, Éric Pession, un message pour toi qu'il a écrit.
Coucou Marie, d'abord te dire à quel point j'ai été heureux de partager 5 ans de ton parcours de skieuse de haut niveau. 5 ans avec comme point d'orgue 2 Olympiades aux résultats identiques, 2 médailles d'argent, mais dans 2 contextes complètement différents. Sochi, c'était Marie 2 le retour. Volonté, courage et talent ont été tes maîtres mots. Pyeongchang, ça a été, de mon point de vue, l'apothéose. J'ai vu une championne rayonnante, épanouie et maîtresse de sa pratique sportive. Un régal pour quelqu'un comme moi. Durant ces 5 années, j'ai aussi vu grandir la femme que tu étais pour devenir celle que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire une championne qui réussit sa reconversion. Continue comme ça, Marie. Reste toi, la femme entière, pleine de conviction et qui fait les choses auxquelles elle croit. Car, comme dit la chanson, ça, c'est vraiment toi.
C'est de téléphone, ça.
Oui.
Ben oui, on se voit beaucoup moins parce que déjà je fais plus de compète, hein, donc voilà, je me challenge un peu moins. Mais il faut que je retourne le voir, j'ai des petits trucs à régler quand même, je pense. Mais ouais, Eric, c'est marrant parce que j'ai presque l'impression que c'est abusé parce que je l'ai vu beaucoup à un moment où j'avais besoin et puis là je le vois moins, donc il pourrait peut-être se dire bah, elle s'est bien servie de moi et puis maintenant on se voit plus. C'est juste que j'ai plus le temps et que ça rentre plus dans mes cases, mais je vais retourner le voir.
Alain Parent, l'un de tes sponsors, notamment, évidemment, on en a parlé pour les Jeux Olympiques 2018, a une petite question.
Marie, c'est quoi ton prochain challenge et quand est-ce que tu vas me solliciter à nouveau ?
Voilà, ah. Pour de la caillasse peut-être. T'as besoin de 35 000 ou pas là ?
Non, si, bon, partir en vacances.
Pas sûr qu'ils te sponsorisent.
C'est pas encore le moment, il y a des choses qui se mettent en place et on verra, mais rendez-vous compte la chance que j'ai de pouvoir avoir quelqu'un comme ça qui me dise quand est-ce que c'est ton premier challenge, je serai là, on ira ensemble et tout, enfin... Je me sens tellement chanceuse, c'est top.
Un message maintenant alors, Mélie Rose, ta fille.
Coucou maman, j'aimerais juste que tu saches que je t'aime, que je te le dis pas souvent, mais que tu restes quand même mon idole parce que je trouve que tu as une vie extraordinaire, une carrière extraordinaire, et voilà.
Ben... Voilà, c'est touchant. Hein.
Ben ouais, elle est petite et c'est fou parce que d'un côté, c'est encore mon bébé et elle a ses doudous, ses peluches. Et si elle tombe et qu'elle se fait mal, ben elle dit maman et elle pleure. Et en même temps, elle a déjà une analyse de plein de choses. On a des vraies discussions de,
elle a 10 ans.
De femme à femme. Et elle a eu 11 ans il y a 2 mois, tu vois. Et on partage des trucs et tout. Enfin, je ne savais même pas que ça pouvait devenir ça, une relation mère-fille, tu vois. Et je nous trouve... Je nous fais rire, enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'assez unique entre elle et moi, mais elle est assez expressive, elle dit « je te le dis pas assez, t'es mon idole » et tout, elle est trop mimi, j'espère qu'elle aura plein d'autres idoles que sa pauvre vieille maman. C'est une gamine géniale, vraiment, c'est incroyable, elle me fait kiffer quoi.
Françoise Martineau, ta maman a une question.
Alors Marie, j'ai écouté plusieurs fois l'hommage que tu as fait, le très bel hommage d'ailleurs que tu as fait à Vince Roffey, et tu dis que tu as un vide parce que tu as vécu aussi ce genre d'émotion, et je voulais te savoir si tu ne penses pas, si tu penses qu'il n'y a que dans le sport que tu peux combler ce vide, ou est-ce que tu peux arriver à avoir des émotions identiques ailleurs que dans le sport ? Voilà.
Ben, c'est une bonne question. Je sais pas trop quoi en faire de ce vide. Donc pour recentrer, c'est le fait de plus avoir ces ascenseurs émotionnels où tu travailles dur et tu t'entraînes dur et tu mets en place un truc. Et comme je disais pour le premier backflip, tu as la peur qui monte forcément. Et le moment où tu réussis enfin ce truc, et ben, y a une libération émotionnelle qui est juste incroyable. Et une décharge d'adrénaline, quelque chose que j'ai du mal à retrouver. Et du coup, c'est vrai que c'est dur. Alors, je roule beaucoup trop vite. Je bois trop de canons. Enfin, en tout cas, si je commence à boire un verre, tu peux être sûr, je m'embardisse. alors, heureusement, c'est pas tout le temps. Mais tu vois, je suis dans l'excès quand même. Et je sais que c'est un peu bizarre. Et je sais pas si on peut combler ça autrement que par le sport. Peut-être le sexe. Je me soigne petit à petit, voilà, c'est juste, ben, y a des choses, quand on est privé, ben, ça prend un peu de temps, comme un deuil, j'imagine. Donc voilà, ça viendra. J'ai confiance en la vie.
Et on rappelle que tu as arrêté ta carrière seulement il y a 2 ans. Voilà,
oui, c'est quand même pas vieux non plus.
Exactement.
Hein,
ouais. Ben Valentin, partenaire en équipe de France, a une question.
Salut Marie, dans combien de temps penses-tu t'introduire en politique ?
Je le reconnais bien là. Je sais pas, il doit être persuadé. Parce que
Tu l'es déjà un petit peu.
Un petit peu. J'accompagne la mère d'Em pour les questions de sport et de communication. Donc, elle a fait de moi une adjointe. Et donc, je me sens bien à ma place comme un lion. Autant j'ai envie de m'investir localement chez moi. Et tout comme Ben, du reste, qui ne l'a pas dit, mais qui l'a fait exactement pareil dans la mairie juste à côté. Et je trouve ça chouette qu'il le fasse et que notre génération puisse amener un peu de nouveauté et de vent frais là-dedans. Mais je ne pense pas que j'irai plus loin.
Pierre Amiche, le producteur des Grandes Gueules du Sport, a également une question.
Salut Marie, c'est Pierre. Écoute, je voulais savoir si tu avais déjà envisagé d'avoir une émission à toi sur RMC. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait rêver ?
C'est quoi cette question piège ? Idéalement, j'aurais aimé que ma reconversion sera totalement et définitivement réussie quand j'aurai réussi à faire en sorte que je vive entièrement
de ce que je fais en tant que consultante sportive. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ce n'est pas grave, je prends ce que j'ai, et ça me fait kiffer déjà de le faire, d'avoir la chance de le faire, mais je suis quand même obligée de compléter avec tout un tas d'autres...
Activité
à côté, et du coup c'est hyper éparpillé et c'est hyper chronophage et ça me prend beaucoup d'énergie et je suis pas sûre que je vais être capable de tenir le choc sur la longue distance avec tous ces sujets en même temps, et j'aimerais vraiment réussir à focaliser et ne faire qu'une chose, et si ça pouvait être le fait d'être à l'antenne tout le temps, je serais la plus heureuse, c'est vrai.
C'était long pour dire oui.
Mais c'est pour ça qu'ils ne me prendront jamais. Je ne suis pas assez synthétique. Voilà.
Merci infiniment, Marie, pour cette boîte à souvenirs. Ben... Un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Pierre Amiche, évidemment, notre producteur, pour son travail considérable. Et notre réalisateur, Adrien Paré. Marie, tu as débuté cette émission. Tu vas pouvoir la terminer. C'est à toi, face aux auditeurs.
Eh bien, alors avant les auditeurs, je vais vous remercier, vous, qui avez fait cette émission. J'y sais, Pierre, vous avez fait un boulot de dingue et je ne vois pas ce que j'ai pu faire pour mériter que vous penchiez autant et dans le détail sur ma vie. Vous avez réussi, j'ai bien chouiné. En même temps, ça fait du bien. C'est toujours bizarre de pleurer en face de quelqu'un. Je pense que ça m'était jamais arrivé en face de toi, en tout cas. Mais voilà, ça me fait plaisir parce qu'on crée quelque chose et on devient amis au-delà de nos relations de travail. Je trouve ça chouette. Et pour ce qui est des auditeurs, eh ben j'espère que je ne vous ai pas trop gonflé avec toutes mes petites histoires, que vous aurez découvert en tout cas à travers moi le monde du ski freestyle qui s'est construit en même temps que moi et qui est devenu un beau sport olympique et que je vous encourage vivement à suivre et dès cet hiver et l'hiver prochain en jeu parce qu'on a des pépites françaises qui vont briller, vraiment.
RMC, la boîte à souvenirs.